10h, une minute, ben pile, ben oui, le point de Max jusqu'à midi. Max Larouche qui s'installe pour 2 heures avec vous. Et 2 heures qui ne seront pas de tout repos parce que l'actualité en ce mardi qui file un peu comme un lundi est pas mal parti ses chapeaux de roue avec entre autres le témoignage de François Legault du côté de la commission Galant sur le fiasco Saclic. Le témoignage qui s'amorçait aux alentours de 9h. Donc, ça fait déjà 1 heure que François Legault est cuisiné du côté de la commission Galant. C'est sûr qu'on n'aura pas le choix d'en parler. Dans les prochaines minutes, déjà, on va faire un tour de ce qui s'est dit, mais tout au long du show, comme je vous mentionnais, là, au courant des 2 prochaines heures, on va se tenir au courant par rapport à ce témoignage-là d'un premier ministre en fonction qui était très attendu du côté de la commission Galant. Il y a quand même d'autres sujets qui font réagir dans l'actualité. On va prendre le temps de traiter ça ensemble aussi. 418-971-1021, c'est le numéro pour me rejoindre en studio. On va prendre les présences. Qui est là pour la toute première du Point de Max à Boulevard 102-1? 418-971-1021 qui est là présentement pour la première du Point de Max. N'hésitez pas en passant, si vous avez des questions, si vous avez des réactions, parce que show-là, à base, je suis pas mal tout seul. Fait que oui, il va y avoir des invités, évidemment. J'en ai quelques-uns aujourd'hui. Il y en a qui vont revenir de façon récurrente. On vous en a déjà parlé, mais Audrey Pinchot, qui sera là pour le segment Open Mic, tous les jours à 10h. Ça va revenir là, du lundi au vendredi. Aujourd'hui, avec Audrey Pinchot, on va jaser d'habitude de consommation d'alcool. Il y a Pascal CV aussi qui va venir faire son tour dans le Point de Max tous les jours. Elle va m'apporter un sujet d'actualité à la sauce. Pascal CV, on va le dire comme ça. Fait qu'on va pouvoir aller dans bien des directions puis avoir du fun avec Pascal. Fait que ça, c'est pour l'heure de 11h, la deuxième heure du show avec mes deux invités qui vont être là du lundi au vendredi. Puis dans la première heure, ben c'est plus là où on va se permettre de bouger, d'avoir de la flexibilité puis d'aller parler des points chauds du moment. Par exemple, ce matin, dans quoi une dizaine de minutes, on va jaser avec Pierre-André Hudon. Il est professeur agrégé au département de management de l'Université Laval. Ce matin, il est cité dans le Journal de Québec, là, dans l'article « La facture explose pour plusieurs chantiers d'hôpitaux du Québec, déjà plus de 1,2 milliard en dépassement de coûts ». Plusieurs questions par rapport à ça, entre autres, comment on évalue ça au Québec, des factures pour des chantiers comme des hôpitaux, puis comment ça qu'on est si mauvais pour évaluer, puis qu'on finit tout le temps par exploser la facture. À 10h30, Mathieu Briand, qui est organisateur de la grande manifestation nationale pour des élections qui s'est tenue hier devant l'Assemblée nationale, vous en avez probablement entendu parler dans les différents médias. C'est une centaine de personnes qui étaient du côté de l'Assemblée nationale pour réclamer des élections au gouvernement Legault. On dit que ce gouvernement-là n'a plus la légitimité pour gouverner. On dit que ce gouvernement-là est corrompu. Donc, on va parler à l'organisateur Mathieu Briand de cette démarche-là qui a été appuyée par le syndicat canadien de la fonction publique. Legault, Monsieur Legault, qui témoigne présentement à la commission Galant, on peut faire un petit tour ensemble de ce qui a été dit. Dans la dernière heure, parce que c'est sûr que c'est ça qui va prendre pas mal de place dans l'actualité. Le temps quand même de saluer ceux qui sont à l'écoute. Nathalie, Carl, Michael, Fred. Ici, j'ai pas tous les noms nécessairement. Alexandre, Christophe, Mylène, Fred. Merci à tous ceux qui prennent le temps de me saluer en cette première du Point de Max à Boulevard 102. Ce sera tous les jours du lundi au vendredi. Quelqu'un qui a écrit « Hey Max, listening to you, man », signé Mike Shinoda. Fait que, écoute, si Mike Shinoda de Linkin Park est à l'écoute, c'est sûr que c'est une pression supplémentaire pour vous donner un gros show avec de l'information de l'information de dernière minute, comme ce que François Legault est en train de nous offrir en direct à la commission Galant. Bon, ce qui a été mentionné dans la dernière heure... entre autres, c'est que François Legault dit que lui, il parle à son directeur de cabinet, qui parle pas dans le quotidien avec le secrétaire général, puis que c'est que le directeur de cabinet qui parle avec le secrétaire général. Fait qu'encore là, on est dans un jeu de qui savait quoi, puis qui savait l'a dit à qui. Fait que là, qui savait pas à partir de ça. Monsieur Legault qui dit qu'il a 100% confiance au jugement de Monsieur Koskinen, là, qui est dans les hauts dirigeants de la CAQ. Tu sais, Martin Koskinen, c'est un très, très proche de François Legault. C'est pas une surprise de voir que M. Legault lui réitère une confiance à 100%. Puis il dit que c'est quelqu'un qui a un bon jugement pour décider s'il y a un dossier qui doit être porté à sa connaissance puis qui doit être discuté avec lui. Il a été questionné, François Legault, à savoir à partir de quand un dépassement de coût devrait lui être communiqué. Puis ça, c'est une bonne question. Puis la réponse est intéressante. Il dit... Ça dépend du dépassement, puis ça dépend du budget. Si je suis sur le budget de la justice, c'est pas la même chose que si je suis sur le budget de la santé, mais il dit que dans tous les cas, il aime ça savoir pourquoi il y a des dépassements. Puis c'est vrai que, on s'entend là, la justice a vraiment pas un budget qui est aussi important que le budget de la santé. Fait qu'on peut comprendre ce que M. Legault pouvait vouloir dire à cet effet-là, mais... lui, ce qu'il réitère, puis je pense que c'est l'important à en comprendre présentement de son témoignage, là, lui, ce qu'il dit, c'est que le contrat là, qui est venu à ses oreilles pendant des années et des années et des années, ben c'était 458 millions de dollars. François Legault, ce qu'il dit, c'est que les dépassements de coûts par en lien avec le projet Saclic, ben il a appris ça en février 2025, en même temps que tout le monde. C'est pas la première fois qu'on entend un membre du gouvernement de la CAQ mentionner qui a appris les coûts dans le rapport du vérificateur général en février 2025. Mais il y a des papiers, dans certains cas, certains ministres, où on peut quand même pas mal en douter. Mais avec François Legault, je pense que la grande question qui reste, ben c'est vraiment, OK, les informations, clairement, avec les papiers, les infos qu'on a, se sont rendues proches de François Legault. À quel point ça a été proche? Puis évidemment, là, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'il l'a su? Mais présentement, ce que dit François Legault, c'est qu'il n'a pas été mis au courant des différents dépassements de coûts. On va continuer de suivre ça tout au long de la journée. Vous comprendrez qu'avec le délai présentement, j'ai pas d'extrait à vous offrir, là. Mais connaissant l'ami Jeff Fortin, qui en sera avec la première d'On en jase ce midi, ben Jeff Fortin devrait avoir des extraits à vous offrir du témoignage ce matin de François Legault, qui était très, très, très attendu. Sinon, dans l'actualité, qu'est-ce qui se passe? Ben, le maire de Québec, Bruno Marchand, qui s'est tapé une tournée des médias, est en une un peu partout ce matin dans les journaux, met la table pour la campagne électorale. C'est un bon moment pour vous dire d'ailleurs que Bruno Marchand, le maire de Québec, sera avec la gang de Gravel dans le retour cet après-midi. Bruno Marchand, qui s'est notamment positionné via le Journal de Québec comme le candidat de l'avenir, reproche toujours un peu la même chose à sa mamade, là, de vouloir revenir dans le temps. Dit qu'il veut tuer l'élan. On s'est un peu posé la question ce matin dans Marceau le matin, à savoir de quel élan il parle. Pour M. Marchand, d'abandonner le projet de tramway, ben, ce serait la pire nouvelle pour l'économie, l'équivalent de jeter 12 milliards d'investissements publics et privés à l'eau. En une du soleil, ce qu'on pouvait lire ce matin, c'est que Marchand vise maintenant 100 000 nouveaux logements d'ici 2040, veut faire du logement vraiment une grande priorité en vue de la campagne électorale. Du côté de Radio-Canada, la une allait ailleurs. On nous apprenait que Bruno Marchand va boycotter Choix Radio X durant la campagne. Ce qu'il dit, c'est qu'il n'acceptera pas de demande d'entrevue à cette station-là qui, selon ses dires, triche, contourne les faits, ment, dit des faussetés. Dans Le Devoir, le maire Marchand qui se vante d'avoir mis en place des changements courageux dit que si tu veux juste te faire aimer, fais pas de politique parce que tu réussiras jamais à faire des grandes transformations au moment où la crise climatique exige que nous en fassions. Mentionne que les gens vont en vouloir bien plus aux politiciens s'ils travaillent juste à être élus et à faire plaisir au monde plutôt qu'à poser les gestes qui s'impose. Aussi, ce matin, c'est via Radio-Canada qu'on apprend que le gouvernement du Québec a investi 150 millions supplémentaires dans Nemaska Lithium. Cette nouvelle-là, en tant que telle, à la base, tu dis, bon, un autre investissement, 150 millions dans filière batterie, on peut passer à la prochaine affaire. Quand tu vas dans les détails, ce qu'on apprend, c'est que On est rendu à 965 millions investis dans ce projet-là par le gouvernement du Québec. Un projet qui est évalué à 3,6 milliards au moment où on se parle. Puis ce que Radcan nous explique, c'est que le nouvel investissement du gouvernement, il vient du Fonds capital ressources naturelles et énergie, qui est doté d'une enveloppe d'un milliard de dollars. Sur ce milliard-là, il y en a 701 millions qui ont déjà été dépensés, dont 650 millions juste à Nemaska Lithium. Nemaska Lithium qui a aussi reçu 175 millions du Fonds de développement économique, 140 millions du gouvernement libéral avant l'arrivée de la CAQ au pouvoir. On parle d'une usine de l'entreprise là, du côté de Bécancour qui doit entrer en opération d'ici 2026, créer 500 emplois. Fait que quand tu fais le calcul, on parle d'un investissement de 2 millions de dollars par emploi. Fait que j'imagine qu'au niveau des retombées, on s'attend à ce que ce soit gigantesque, sinon je vois mal comment on peut défendre cet investissement-là. Puis y a quand même plus que ça quand tu fouilles plus loin. En 2019, Radio-Canada qui nous raconte que Nemaska Lithium s'était placé sous la protection de la loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. En 2020, les petits investisseurs de l'entreprise qui avaient tout perdu dans une restructuration de l'entreprise, puis à cette heure, le gouvernement du Québec qui détient 50 % et Rio Tinto l'autre 50 % Fait qu'est-ce qu'on se dirige vers un autre scandale à la Nordvolt? On le souhaite pas parce qu'en bout de ligne, c'est notre argent. Mais quand tu regardes ça comme ça, ben c'est sûr que ça regarde peut-être pas nécessairement bien. Je voulais vous parler évidemment de cette nouvelle-là parce que dans quelques minutes, on va en parler avec un spécialiste, Pierre-André Hudon, professeur agrégé au département de management de l'Université Laval. C'est l'article du journal qui nous parle d'importants dépassements de coûts qui sont observés sur plusieurs chantiers d'hôpitaux du Québec. On nous rapporte que 8 projets ont connu des dépenses supplémentaires qui nous mènent à un total d'1,2 milliard. Ça, il y a plusieurs façons de l'imager. 1,2 milliard, on pourrait parler de 3 centres Vidéotron, on pourrait parler d'un Saclic. Sur 14 chantiers hospitaliers en cours de réalisation, c'est plus de la moitié qui enregistre des dépassements de coûts, une hausse de coûts globale qu'on évalue à 20 % Déjà la semaine passée, on apprenait que le chantier du nouveau complexe hospitalier sur le site de l'hôpital de l'Enfant-Jésus avait besoin d'une somme supplémentaire de 418,3 millions. Puis qu'à ce moment-là, le coût du projet, ça passait de 2,2 milliards à 2,6 milliards, une hausse d'environ 18 % Pierre-André Hudon, à qui on va parler dans les prochaines minutes, lui, ce qu'il dit, puis des images de même, s'il y en a une coupe, je vais y prendre, parce que c'est toujours intéressant, pertinent, ça permet de comprendre, de frapper l'imaginaire. Si je vais m'acheter une Toyota Camry avec un budget de 15 000 puis que finalement, ça coûte 50 000, c'est pas un dépassement de coût. C'est une mauvaise estimation. Fait qu'on va discuter avec M. Hudon justement de cette façon-là d'estimer des coûts, peut-être de trouver ensemble des solutions pour mieux estimer les coûts au Québec parce que visiblement en ce moment, c'est un problème. Nicolas Jobidon, qui est professeur agrégé à l'ENAP, lui, est spécialiste des marchés publics, aussi cité dans le journal. Lui, ce qu'il dit, c'est que en fait, il y a l'impression que le recours à la sous-traitance est souvent vu comme une solution qui permet au gouvernement de se délester de leur responsabilité de mise en œuvre pour se concentrer sur la prise de décision. Fait qu'il y a bien des couches à gratter de cette nouvelle-là. Rapidement au sport, ça va bien pour le Québécois Félix Auger-Aliassime au US Open à New York après une victoire en 4 manches face au 3e mondial Alexander Zverev samedi. Auger-Aliassime qui a eu le dessus en 3 manches sur André Roublev hier pour obtenir son billet vers les quarts de finale. Va affronter demain le 8e mondial Alex de Minaur. Tennis féminin, la Québécoise Leila Annie Fernandez qui connaît aussi du succès aux internationaux des États-Unis. Elle, c'est en double que ça se passe aux côtés de l'Américaine Venus Williams. Les deux qui n'ont pas perdu une manche depuis le début du tournoi vont affronter cet après-midi Tyler Townsend et Katerina Siniakova en quart de finale. Les Capitales de Québec, eux, qui vont amorcer leur parcours éliminatoire demain face aux Boulders de New York. Le premier match sera disputé aux États-Unis, le deuxième ce vendredi au Stade Canac. Si nécessaire, il y a un match numéro 3 qui sera aussi disputé ici à Québec en fin de semaine. Dans les prochaines minutes, comme je vous le mentionnais, on jase avec Pierre-André Hudon, qui est professeur agrégé au département de management de l'Université Laval, par rapport aux coûts qui explosent sur les chantiers d'hôpitaux au Québec. Le point de match. La facture explose pour plusieurs chantiers d'hôpitaux du Québec. Déjà plus de 1,2 milliard en dépassement de coûts. Il y a bien des questions à se poser. En plein fiasco, ça clique. En plus, on n'est pas dans le même genre d'explosion de coups, mais quand même, il y a des questions à se poser, comme je le mentionnais. Et pour répondre certainement à certaines de ces questions-là, on rejoint Pierre-André Hudon. Il est professeur agrégé au département de management de l'Université Laval. Il est cité ce matin dans l'article du Journal de Québec. Monsieur Hudon, bonjour.
Bonjour.
Ça va bien?
Ça va très bien, merci.
Comment on évalue ça au Québec, des factures pour des gigantesques chantiers comme des hôpitaux? J'imagine qu'il y a une façon de faire qui est assez uniforme. C'est quoi cette façon de faire-là?
Ben, quand on parle de dépassement de coûts, puis quand vous parlez même d'évaluation de factures, il faut toujours bien définir de quoi on parle. Parce qu'on ne peut pas parler de dépassement de coûts si on n'a pas deux informations. L'estimé et le coût réel. Mm-hmm. Évidemment, un dépassement de coût, normalement, comme on le comprend, là, c'est un dépassement entre l'estimation et le coût réel. Là, on peut se poser la question, il est où le problème? Est-ce que c'est dans l'estimation? Est-ce que notre estimation, elle est trop vieille et elle correspond à des prix de marché trop bas? Est-ce que le projet que l'on a évalué, c'est plus vraiment le projet qui a été construit parce qu'il y a eu des demandes, des changements, etc.? Ou si l'estimation, au contraire, elle était bonne et elle est relativement actuelle, et les coûts de projet ont explosé parce qu'on a payé trop cher pour toutes sortes de raisons. Il y a souvent une tendance à penser que quand on parle d'explosion de coûts, on dit on s'est fait avoir, mais il y a peut-être un peu... La réalité est souvent un petit peu plus subtile que ça. Okay. Mais là où je veux en venir, c'est que si c'est les estimations qui sont déficientes, c'est un problème. Si c'est la gestion des contrats, des coûts réels qui est trop élevé, c'est un autre problème distinct. Donc, on ne peut pas le savoir tant qu'on n'a pas vu le détail comptable et des estimations et des coûts réels.
Pourquoi on dirait que c'est comme rendu une norme au Québec de ne pas respecter les estimations de coûts? Tu sais, puis même, je parlais en introduction de la commission Galland présentement, du fiasco Saclic, puis tu sais, je me souviens, on avait fait jouer un extrait de Geneviève Guilbeault qui a quasiment l'air de dire à quel point, oui, mais c'est normal d'avoir des explosions de coûts. On en a dans tel dossier, puis tel dossier, puis tel dossier. Pourquoi c'est comme rendu une norme de ne pas être capable de respecter les chiffres qu'on a mis sur la table?
Bien, un des problèmes, c'est probablement les estimations de départ qui sont trop basses, pour toutes sortes de raisons. C'est bien documenté, puis là, je ne parle pas du Québec, mais c'est bien documenté dans la littérature scientifique que souvent, on va sous-estimer les coûts volontairement pour faire accepter les projets. Parce que dans la dynamique politique, rajouter à ça la pression médiatique, la pression des campagnes électorales, on aime mieux annoncer un coût un peu plus bas, quitte à dire, on s'excuse, on a dépassé nos coûts, surtout qu'on est dans une ambiance où on sait qu'il va y avoir des dépassements de coûts de toute façon, pour faire accepter le projet puis l'embarquer. Parce que si on avait donné la bonne estimation dès le départ, en sachant très bien combien ça allait coûter, le projet se réaliserait pas, serait jamais accepté. Puis je vous renvoie au troisième lien, là. Je pense que on sait très bien les coûts réels que ça finirait par coûter sont probablement beaucoup plus élevés que ce qui a été mentionné dans les médias, mais cette dynamique-là existe dans à peu près tous les grands projets publics.
Et est-ce que le domaine hospitalier, parce que c'est ce dont parle l'article là, en particulier de ce matin du journal, est-ce que le domaine hospitalier est plus difficile un peu quand on vient le temps d'estimer des coûts? T'sais, on pouvait lire que c'est un domaine qui évolue excessivement rapidement. Fait que là, je donne un exemple fictif, mais mettons qu'on évalue des coûts en 2015, le temps que le projet se mette en marche, qu'on avance, mettons qu'on est rendu en 2022-2023, bien là, c'est parce que telle affaire qu'on prévoyait mettre, ça va plus pantoute, c'est déjà de la technologie du passé, ça vient-tu compliquer les choses un peu?
Il y a la question de la technologie, il y a la question, puis là, les dates que vous avez choisies, je ne sais pas si c'est un hasard, mais en 2015 puis 2022, vous savez très bien qu'il y a eu une pandémie qui a fait exploser les coûts de construction à cause d'une pénurie de main-d'œuvre, à cause de toutes sortes de facteurs, là, on n'a peut-être pas le temps d'en discuter, mais il reste qu'on sait très bien que les coûts de construction ont explosé. Puis après, il y a la question de la complexité. Un hôpital en particulier, il y a des technologies de pointe, hein, on le comprend bien, qui souvent ne sont même pas encore existantes là, au moment où on fait les estimés. Ce qui fait que généralement, on va spécifier, ben, on veut les appareils qui seront les plus performants au moment de la construction, peut-être 10, 7, 8, 10 ans plus tard. Donc, on se prend beaucoup de marge de manœuvre. Rajouter à ça une autre couche de complexité en plus, qui est celle de la coordination entre les ingénieurs, les différents corps de métier. Vous savez, dans un hôpital, il y a une variété très importante de corps de métier qui ont toutes des compétences très variées, qui ont des demandes très précises en termes d'équipement. Pensez aux médecins, aux techniciens, aux gens qui s'occupent de la radiologie, aux chercheurs. C'est plein de gens qui ont des besoins assez complexes. Fait que la coordination de tout ça et la traduction, si vous me passez l'expression, de cette coordination-là en exigence technique dans les plans devient extrêmement complexe. Et plus c'est complexe, plus il y a de chances qu'il y ait des erreurs.
Est-ce qu'on peut faire des liens entre le papier de ce matin sur les explosions de coûts sur des chantiers d'hôpitaux et l'explosion des coûts pour Saclic? Là, on s'entend, on est dans deux domaines très, très différents. Un, on est vraiment dans le très physique, là, je veux dire un hôpital qu'on construit ou qu'on rénove. Puis après ça, il y a la transformation numérique. Mais reste qu'en bout de ligne, quand on parle d'explosion de coûts présentement, on pense à Saclic. On n'a pas le choix d'essayer de faire des liens dans nos têtes. Est-ce que ces liens-là sont valides?
Ben, du point de vue théorique, on peut se dire que oui, les liens sont valides dans le sens que c'est soit un problème d'estimation, soit un problème de gestion du contrat, d'achat des matériels puis des heures de travail à un prix trop élevé par rapport aux estimations. Évidemment, tant qu'on s'est pas mis le nez dans la comptabilité et des estimés et des coûts réels de chacun des projets, on n'aura pas un portrait exact. Tu sais, je veux pas avancer de dire que ici dans sa clique, le problème c'est celui-là, puis c'est exactement la même chose dans le cas du nouveau centre hospitalier, parce qu'on le sait pas là. Tu sais, j'ai pas vu les chiffres. Cela étant dit, je vous rappelle que dans un projet là, tous les coûts se limitent essentiellement à quatre éléments: des nombres d'heures travaillées, des taux horaires des gens qui travaillent, des matériaux de construction, puis des coûts des matériaux de construction, des quantités de matériaux et des coûts. Le problème, il réside dans un de ces quatre éléments-là. Soit qu'on paie trop cher pour les matériaux, soit qu'on paie trop cher les gens, soit qu'on passe trop d'heures à travailler, soit qu'on achète trop de matériaux. Mais là, comment, dans le processus décisionnel, l'erreur s'est glissée? Ben là, il faut une analyse un peu plus raffinée.
Je vous rappelle qu'on parle avec Pierre-André Hudon, il est professeur agrégé au département de management de l'Université Laval, cité ce matin dans le Journal de Québec dans le papier. La facture explose pour plusieurs chantiers d'hôpitaux du Québec, déjà plus de 1,2 milliard en dépassement de coûts. Aussi cité dans l'article, un certain Nicolas Jobidon, qui est professeur agrégé à l'INAP et spécialiste des marchés publics. Et lui, ce qu'il mentionne, puis ça c'est un point qui est venu accrocher, j'ai l'impression, ben du monde, il n'y a pas d'école des marchés publics. 100% des approvisionneurs publics sont entrés au bas de l'échelle puis ont comme appris sur le tas. Est-ce que c'est quelque chose qui est normal pour un rôle qui est aussi important en bout de ligne puis qui coûte du vrai cash aux contribuables?
Normal, je ne sais pas, mais mon collègue Nicolas Jobidon a certainement raison qu'il y a peu de formation universitaire. Nous, on vient d'en fonder une, si vous voulez. Là, on vient d'en mettre une sur pied conjointement à l'Université Laval puis à l'ENAP, un DESS en gestion des marchés publics. Évidemment, ça vient de commencer là, cette année en 2025, donc on n'a même pas nos premiers étudiants, mais il reste que oui, le travail de gestion des contrats, qui est assez fondamental pour l'État, parce que l'État fait faire beaucoup de choses. Les contrats publics, c'est mine de rien 15-20% des dépenses du PIB des États. Hein? Donc, c'est des énormes montants. Tout ça passe par des contrats. Je pense qu'on aurait beaucoup à gagner à mieux se munir. C'est déjà très encadré par la loi, mais je pense que l'État devrait développer des capacités à mieux gérer son contrat qui vont au-delà de seulement suivre la loi. Surtout que, ça, je me permets un petit aparté, là, on a tendance à avoir une culture très, très conservatrice là, dans la gestion des marchés publics, c'est-à-dire qu'on passe au mode du plus bas soumissionnaire. On a souvent tendance à dire « Ah, mais ça, c'est obligatoire ». En fait, la loi au Québec est beaucoup plus permissive que ce que l'on voit en pratique. La loi nous donne le choix de ne pas prendre le plus bas soumissionnaire si on a des critères, par exemple, de qualité qui sont plus élevés. On peut dire octroyer un contrat au 2e, 3e plus bas. si on est capable de démontrer que c'est un meilleur deal, si vous me passez l'expression, un rapport qualité-prix plus élevé. Évidemment, il faut le spécifier en amont dans les documents d'appel d'offres, mais la culture du plus bas soumissionnaire, là, c'est justement rien de plus qu'une culture. Okay. Dans le sens qu'on a des alternatives.
Puis est-ce que c'est juste, on parle de culture, c'est-tu vraiment juste ça, une culture qu'on fait, bon ben ça a toujours été de même, ça va rester de même, puis on avance comme ça?
Je pense pas que ça va toujours rester de même. Je pense qu'on peut, les cultures, ça change, hein, à travers le temps, les cultures évoluent. Il y a certainement des bonnes pratiques qui doivent évoluer. Je pense que de se mettre dans un état d'esprit où on évalue la qualité des propositions plutôt que de prendre la plus basse, c'est certainement quelque chose vers le quoi on devrait tendre. Cela étant dit, ça demande des capacités d'analyse importantes de l'État.
Justement, en ce moment, on voit que ça, c'est peut-être problématique quand on apprend sur le tas, puis fait qu'à la base, le problème part peut-être un peu de là aussi?
Bien, c'est certainement une partie de la réponse. Donc, développer des capacités d'analyse, de donner des ressources aux fonctionnaires pour être capables de bien connaître chacun des domaines. Vous savez, il y a des gens là, qui font des appels d'offres à temps plein qui doivent être spécialistes de microscopes dans les hôpitaux, puis le lendemain, acheter des chaises pour les prisons au Québec. Ouais. On peut pas être expert de microscopes et de chaises et de grands projets de construction en même temps. Donc, tu sais, d'avoir les ressources pour être capable de bien connaître son marché, d'être des magasineurs, permettez-moi l'expression, à temps plein, qui connaissent bien les produits, qui connaissent bien les niveaux de prix, qui savent ben où est-ce qu'on peut faire des compromis sur telles options, sur certains produits, par exemple, ça serait une bonne idée. Cela étant dit, ça prend du monde, ça prend des capacités, ça prend des ressources, ça prend des gens bien payés pour le faire.
Pierre-André Hudon, professeur agrégé au département de management de l'Université Laval, merci beaucoup pour votre temps.
Merci beaucoup.
Bonne journée. Donc, je pense qu'on a des éléments de réponse par rapport à certaines questions qu'on avait. Je vous rappelle qu'on discutait là d'explosion de coûts pour des chantiers d'hôpitaux au Québec. Déjà plus de 1,2 milliard. Ça, c'est juste en dépassement de coûts. C'est le Journal de Québec qui nous a sorti ce papier-là ce matin. On est comme dans un timing où dépassement de coûts, on en parle pas mal avec la commission Galland. Je vous rappelle que François Legault est en train de témoigner par rapport à ce qu'il savait, ce qu'il savait pas, ce qu'il a su quand, par rapport au fiasco Saclic puis l'explosion des coûts. On parle déjà d'explosion de coûts dans la transformation numérique du système de santé. Fait clairement, dépassement de coûts, c'est quelque chose qu'on n'a pas fini d'entendre. Au retour, Mathieu Briand, qui est organisateur de la grande manifestation nationale pour des élections qui s'est tenue hier devant l'Assemblée nationale du Québec. On demande le déclenchement d'élections. Drette là! Le point de max. 10h34 dans le point de max. Il y a quoi que ce soit sur les routes? 88-971-1021. Pour l'instant, ça semble assez beau. À la météo, on est monté jusqu'à un 19 degrés présentement. On attend 25 aujourd'hui avec alternance soleil-nuage. Ça va être quand même une belle semaine, là, assez ensoleillée avec du soleil. La plus belle journée, clairement, c'est ce jeudi, 27 degrés avec un gros soleil. Hier aussi, c'en était une belle journée. Et il y en a qui en ont profité pour aller manifester devant l'Assemblée nationale. On demande carrément à la coalition Avenir Québec de François Legault de déclencher des élections. Et c'est un mouvement qui a été lancé, organisé par Mathieu Briand, qui est au bout du fil. Monsieur Briand, bonjour.
Oui, bonjour.
C'est le Syndicat canadien de la fonction publique qui a appuyé la démarche, ou du moins, il y a au moins ce groupe-là qui l'a appuyé. Concrètement, c'est qui a organisé ça? Est-ce que c'est vous personnellement ou il y a un groupe avec vous?
Oui, donc effectivement, c'est moi en tant que citoyen là, engagé, interpellé par le baillon hein, 69 là, qui est survenu dans la nuit du 6 au 7 juin. Moi, j'ai assisté. J'étais à l'Assemblée nationale cette nuit-là et j'étais bouleversé et franchement en colère de voir les banquettes du gouvernement se vider là quand la procédure du baillon a été entamée et les quelques députés qui étaient là du gouvernement n'écoutaient même pas les doléances de l'opposition. voyais, je voyais ce qu'on voit pas normalement dans les caméras là, qui rapportent ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Je voyais un François Legault arrogant qui narguait les gens de l'opposition qui faisaient valoir que justement s'attaquer ainsi à l'héritage de René Lévesque, c'était inacceptable et c'était certainement pas approprié dans les circonstances où son gouvernement est projeté actuellement à zéro siège là, s'il y avait des élections, justement. C'était la même chose, c'était déjà le cas en juin. Et moi, je suis un citoyen de Blainville, donc j'étais également interpellé dans le baillon 93, là, hein, qui vient donner l'immunité totale à Stablex, mm-hmm. compagnie américaine Voyou, là, qui vient de doubler sa superficie hein, par le baillon de 93, où ce que là, on va rajouter quatre stades olympiques, l'équivalent de quatre stades olympiques de déchets toxiques dans une tourbière millénaire. Là. Donc, c'est pour moi, là, c'est un gouvernement extrêmement cynique qui prend des décisions pour lesquelles il n'a pas été élu. Et là, moi, je me dis, ben, j'étais insatisfait de la réponse qu'il y avait, de la mobilisation qu'il y avait, je la trouvais insuffisante. Alors, moi, dans ce temps-là, quand je suis insatisfait, je fais pas juste chialer, je prends le flambeau. Puis c'est ce que j'ai fait en faisant un appel, un cri du cœur, dans le fond, au matin du 7 juin. Un appel qui a été très bien reçu sur les réseaux sociaux. J'ai eu plus que 8000 personnes intéressées à faire cette manifestation-là d'hier. Donc, c'est une manifestation citoyenne qui a été effectivement appuyée par le mouvement, la syndicale du SFP Québec.
Il y avait, vous mentionnez qu'il y avait quoi, 8000 personnes intéressées à l'événement. Finalement, hier, c'était quoi? C'était une centaine de personnes?
Oui, il y avait que 200 personnes, mais c'était quand même des fiers. Puis je tiens à les remercier, les gens qui se sont déplacés en ce jour de congé. Moi, c'est un pari que je faisais qu'il y aurait beaucoup de gens parce que, bon, ils sont en congé payé et tout ça. Mais finalement, ce que ça a fait, c'est que ça a donné beaucoup d'attention médiatique à la chose. Puis, je tiens à remercier ces gens-là qui ont été peu nombreux, moins en tout cas que ce que j'espérais, mais qui ont porté fièrement cette colère là que 90% des Québécois ne veulent plus de ce gouvernement-là, ne revoteront plus jamais pour la CAQ, ils sont extrêmement déçus. Donc, moi, je les remercie. Ils étaient très bruyants, très pacifiques, par contre, malgré cette colère qui gronde. Puis c'était une belle démonstration. Moi, je voulais commencer quelque chose. Je voulais que dans l'espace public, cette voix-là se fasse entendre comme quoi que ben il n'y a plus de légitimité, François Legault, de continuer ainsi la liquidation de la belle province. Je pense qu'il fallait que ce soit qu'il y ait un message clair qui soit envoyé, puis c'est ce qu'on a fait hier.
Oui, parce que tu sais, dans le nom de la manifestation, on dit qu'on demande des élections. Vous savez très bien que le gouvernement ne va pas déclencher des élections précipitées. Pourquoi on n'a pas revendiqué des demandes qui sont plus réalistes? Est-ce que c'est juste parce qu'on voulait y aller pour le coup d'éclat, puis on demande des élections parce qu'on sait que c'est pas ça qui va arriver?
Ben écoutez, moi je pense que c'est ça que les gens veulent, honnêtement, puis c'est ce que la réaction, du moins par le biais des réseaux sociaux, démontrait. Là, il y avait une très belle réponse sur les réseaux sociaux, mais on n'a pas reculé bien loin. C'était la même situation avec Justin Trudeau, hein, que je qualifiais de véritable pierre au rein. Là, je veux dire, tout le monde avait hâte qu'il démissionne. Et il a déclenché des élections hâtives au fédéral. Fait que c'est un peu le même principe.
Ben, c'est pas le même contexte parce que la CAQ est majoritaire, puis la CAQ peut encore gouverner comme elle le veut pendant un an, puis avec des projections de zéro siège, il n'y a aucune chance présentement que la CAQ dise « Eh ben oui, il y a 200 personnes devant l'Assemblée nationale, on va déclencher des élections. »
Non, effectivement. Écoutez, je suis d'accord avec vous. Ça m'étonnerait que François Legault, suite à sa comparution à la commission Galland, prennent en compte nos revendications. François Legault est beaucoup trop imbu de lui-même, puis il n'y a aucune chance probablement que pour cette raison-là, il y ait un déclenchement d'élection avec cette manifestation-là hier. Sauf que, justement, la saga de la commission Galland se poursuit. Je l'écoutais avant de venir en onde avec vous, et François Legault est encore et en train de perdre la face. Hein. Moi, je pense qu'il sera démasqué. Et puis, il disait encore qu'il n'était pas au courant avant février 2025. Imaginez-vous, là. Alors, on est à mi-chemin entre la corruption puis l'incompétence. Mais, écoutez, là, c'est très grave ce qui se passe au Québec avec ce gouvernement-là. Il va très loin. Il est en train de procéder à une véritable dépossession tranquille. Moi, je suis très inquiet de tout ce qui pourrait être fait dans un élan de désespoir comme ça, sachant qu'il peut pas revenir, qu'il sera pas élu la prochaine fois. Il dit qu'il veut faire, il veut finir la job, mais si c'est de nous déposséder en un an, il peut faire bien des choses. Alors moi, je suis très inquiet, puis je veux juste que il y aura d'autres, hein, il y aura d'autres manifestations, il y aura d'autres événements qui vont survenir, parce qu'il faut faire la démonstration que le peuple en a assez. Et moi, j'ai encore espoir qu'on est dans une démocratie. Oui, il y a des règles à la démocratie. François Legault pourrait déclencher des élections s'il était dans une meilleure situation dans les sondages. Peut-être qu'il le ferait. Mais là, puis il y a toute la loi des élections à date fixe. Je comprends tout ça. Mais les Québécois ne veulent pas un remaniement ministériel en ce moment. Ils veulent des élections. Moi, je suis convaincu de ça. Alors, bien que ce soit peut-être à vos yeux un vœu pieux, moi, je pense que c'était tout à fait légitime de tout de moins le dire et d'envoyer un message clair que nous,
absolument,
citoyens, c'est ça qu'on veut. Quand même qu'on était juste 200, on est appuyé par bien plus que ça. Moi, je pense qu'il y a des centaines de milliers de Québécois qui revendiqueraient des élections s'ils le pouvaient.
Ah, les sondages,
moi, j'ai pris le porte-voix.
Ouais, les sondages le montrent. Il y a une insatisfaction des Québécois envers le gouvernement de François Legault. Maintenant, on verra pour la suite des choses. Dans l'invitation à ce rassemblement-là, on parlait du gouvernement corrompu de François Legault. C'est quand même grave comme accusation de parler de corruption. Est-ce que vous faites référence à un dossier en particulier quand on parle de corruption, quand on accuse le gouvernement Legault d'être corrompu?
Ben absolument. Moi, c'est, écoutez, je pense que l'histoire démontrera que François Legault et son gouvernement sont au service des multinationales et des intérêts privés. Que ce soit dans le dossier Stablex, le baillon de 93, c'est épouvantable. Et moi, je cherche une explication. Pourquoi qu'est-ce que le premier ministre qui se targue d'enlever des bouteilles de vin américaines de la SAC, qui dit aux gens de boycotter le jus d'orange, reçoit à pleine porte des dizaines de camions par jour, des produits extrêmement toxiques, à côté de l'école de ma fille. C'est complètement... Monsieur veut décarboner le Québec, mais il nous empoisonne. Vous savez, c'est très, très grave ce qui se passe à Stablex. Il n'y a rien qui justifie ça. Moi, la seule explication qui me vient, c'est qu'il y a des enveloppes brunes quelque part, c'est qu'il y a de l'argent en jeu qu'on voit pas. Il y a des intérêts extrêmement puissants derrière les lobbies de Stablex. Et ça, c'est une chose. Si on regarde ce qui s'est passé avec Nordvolt, si on regarde ce qui se passe avec Saclic, écoutez, là, il y a de la grosse argent en jeu. C'est tout des fiascos. Fait qu'il y a de l'argent qui se perd quelque part. Moi, écoutez, je suis pas un juge. Je peux pas le condamner pour corruption. Mais ma prétention, je la trouve pas si fabulatoire. Là. Il faut bien qu'il y ait une explication. Pourquoi est-ce qu'il est en train de nous vendre à rabais à des sociétés multinationales américaines, tout ça? J'ai pas d'autre explication. En avez-vous un autre, vous?
Ben non, mais c'est une question qui peut se poser, mais de l'assumer, de dire qu'il faut mettre le gouvernement corrompu de François Legault dehors, c'est que c'est grave comme accusation, puis
Absolument. Moi, je trouve ça extrêmement grave. Pour que j'aille au bat comme ça, puis que je me démène comme ça, c'est parce que c'est fondamentalement ce que je crois, puis personne ne le dit de cette façon-là. Fait que moi, j'ai le courage de mes convictions.
Parfait.
Puis j'assume complètement. S'il veut m'envoyer une mise en demeure pour me dire... J'ai même dit à LCN en direct que c'est un traître à la nation. Je le crois profondément. Je le crois avec certitude. Est-ce que je suis capable de le démontrer hors de tout doute maintenant en ligne avec vous? Non. Mais si on me donne le temps puis les ressources, le temps va le démontrer. Moi, je suis convaincu de ça. L'histoire va se rappeler de ce gouvernement là pour un gouvernement qui nous a vendu à des intérêts étrangers, qui a renié son mandat pour le peuple, son serment au peuple. Fait que il y a des façons plus douces de le dire, mais moi je veux, écoutez, vous me connaissez pas encore, vous allez me revoir, moi je suis un provocateur festif.
Ah ben on vous avait vu en 2018, vous avez fait la manchette en apostrophant Justin Trudeau lors de la fête nationale du Québec. Vous l'avez accusé d'être un traître venu nous narguer. Est-ce que vous regrettez cet épisode-là à vous entendre, je pense pas?
Ben non, absolument pas. Puis justement, l'histoire m'a donné raison. Puis écoutez, encore aujourd'hui, on m'en parle. Puis non, j'ai absolument pas de regrets. Est-ce que j'aurais pu faire les choses différemment? Est-ce que j'aurais pu être plus diplomatique? Absolument. J'ai changé mes méthodes. Maintenant, on m'a mis en prison toute la nuit, quasiment illégalement suite à ça. Hein. J'ai été prisonnier politique suite à cette altercation-là. C'est une longue histoire. Si vous me partez là-dessus, on va en avoir pour longtemps. Il va falloir que vous me réinvitiez.
Ça va me faire plaisir.
À moi, pareillement.
Mais pour continuer un peu dans cette veine-là, vous aviez tenté de vous présenter pour le Bloc québécois il y a quelques années de ça. Puis un peu en lien avec cet incident-là, je pense que, tu sais, au niveau politique, on n'aime pas cette façon de faire-là. Au niveau politique, êtes-vous affilié au Parti québécois? Allez-vous militer pour le PQ en vue de 2026?
Non, absolument pas. Ben, c'est, écoutez, je suis pas impliqué en ce moment dans aucun parti. J'ai pris un peu de la distance face au monde politique. J'ai été extrêmement déçu des guerres intestines que j'ai vécues au Bloc. Le Bloc m'a bloqué plus moi que Justin Trudeau. Ben honnêtement, j'ai été extrêmement. Je vous dirais, vous savez, je mange pas mes mots, j'ai été dégoûté de l'attitude de François Blanchet à mon égard. Il m'a fait une guerre à l'interne pour m'empêcher d'être candidat alors que j'avais l'appui des gens de la circonscription. J'ai même été élu président de la circonscription de Papineau en vue justement d'être candidat contre Justin Trudeau. Et François Blanchet n'a pas respecté les statuts, n'a pas tenu d'investiture. Parce que c'était sûr que je l'emportais. Il n'y avait personne qui voulait se présenter contre moi. Les membres du comté, c'est moi qui voulais comme candidat. Et la seule façon qu'il a trouvé de faire, c'est d'empêcher l'investiture, même si j'avais rempli tous les critères pour qu'il y en ait une. Alors, j'ai compris aussi bien des choses de comment ça fonctionne la politique. Je vous dis pas que je ferai pas un retour un jour, mais j'ai pris de la maturité au travers de ces 8 dernières années. J'ai apostrophé d'autres politiciens. Puis je vais continuer de faire mon travail un peu de goon. Hein? J'ai pas peur, j'ai pas froid aux yeux, mais je le fais de façon plus diplomatique. Mais j'étais vraiment en colère avec Justin Trudeau qui venait vraiment faire le temps à la Saint-Jean, à la fête nationale en 2018 au Parc Jarry. Puis honnêtement, tout ce qui se passait derrière ça, derrière le rideau qui faisait venir une dizaine de photographes pour venir faire du body surf avec des figurants, moi, ça m'a mis complètement hors de moi. Je pensais à l'histoire, je pensais à tout ce que mon père m'a enseigné, qui m'a raconté de l'histoire de son père à Justin Trudeau, qu'il représente, veut pas, là. Puis c'était exactement 50 ans plus tard que le lundi de la matraque, hein, cette fameuse altercation-là que j'ai eue. Puis à l'époque, quand Pierre Trudeau était venu à la fête nationale, il y a eu une véritable émeute. Là. Les gens, ils pitchaient des bouteilles de bière. C'était vraiment le bordel. C'était un autre contexte. Mais là, quand j'étais là, il y a personne qui faisait rien. J'avais croisé Jean-François Lisée, Gabriel Nadeau-Dubois, qui étaient tous coordonnés pour venir faire une espèce de parade politique, là. Ils arrivaient tous à la même heure à 5 minutes d'intervalle. Puis je leur ai demandé, est-ce que vous allez dire quelque chose? Est-ce que vous trouvez pas que c'est effronté que Justin Trudeau vienne ici faire un show de boucan comme s'il était bien accueilli avec des figurants, alors qu'il combat la reconnaissance de la nation québécoise en cours, juridiquement, il finance le côté qui contestait la loi 99. Donc, puis non, il osait pas, tu sais, les politiciens sont très gris. Ils ont peur, justement, parce que les Québécois ont la réputation de pas aimer la confrontation, de pas aimer la chicane. Mais à un moment donné, ça amène qu'on se fait manger à laine sur le dos. Puis moi, je considère qu'à l'intérieur de nous, on a une grande force, on a une grande résilience. Puis lorsque le moment vient, il faut se lever de bout. Le peuple à genoux, moi, j'en suis pas. Puis je suis pas tout seul. Puis si je peux... Si je peux être un fier défenseur de la nation québécoise quand les opportunités se présentent, mais je vais toujours le faire. Parce que là, j'ai appris, c'est ça, je vous dis, je suis un peu plus expérimenté. J'ai du plaisir, malgré tout, au travers de tout ça, même si des fois, je suis quand même assez hors de moi. Mais je l'ai un peu échappé avec Justin Trudeau, mais c'est ce qui a plu à ben des gens. Mm-hmm. C'est une authenticité qui s'est déployée. Puis depuis ce temps-là, pourquoi je regretterais, c'est ce qui m'a mené aujourd'hui à vous parler. T'sais, c'est tout un enchaînement d'événements par la suite.
Mathieu Brien, organisateur de la grande manifestation nationale pour des élections. On va devoir se reparler parce que c'est tout le temps qu'on avait, mais ça a été un plaisir. Puis il y a des auditeurs qui sont qui vous trouvent peut-être intense sur certains points, mais qui sont d'accord avec le fond de votre pensée, puis avec le fait que oui, c'est correct de demander au gouvernement de la CAQ de déclencher des élections. Puis il y en a de votre bord.
Ah, bien, écoutez, j'en suis convaincu. Ça m'a fait plaisir de participer au baptême de votre radio parler. Puis réinvitez-moi, ça va me faire plaisir de venir discuter avec vous.
Yes, hey, merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Bye-bye. On passe d'un intense à un autre. C'est Pierre-Luc Gilbert, le coach Gilbert, qui a fait son entrée en studio. Parce que je pense que c'est la première annonce qu'on peut faire. Bon, en fait, c'est pas vrai.
Une annonce.
Ben oui, c'est une annonce. Dans nos collaborateurs réguliers, t'es le premier à être annoncé parce que je considère que Audrey Pinchot et Pascal Cévé, bon, ça a été annoncé. Ça faisait partie de l'annonce initiale du Point de Max. Audrey Pinchot avec son segment L'Open Mic tous les jours 11h. Pascal Cévé qui sera là vers la fin du show aussi. Mais on m'a contacté dans les dernières semaines. Puis on m'a dit, Marceau veut plus parler au coach Gilbert.
Ah, je pense que c'est pas ça que j'ai entendu, mais écoute, je suis bien, bien fier d'avoir parti de tes collaborateurs puis d'être le premier.
Ben, le premier à être annoncé. Non, c'est pas vrai. Marceau aurait adoré continuer à collaborer avec le coach Gilbert, mais je suis bien content de t'avoir pour moi. Je pense qu'on est capable d'avoir de bons débats.
En fait, c'est pas compliqué pour nous autres. Ce qui se passe en corridor, on va plutôt le faire là. On est quand même deux tripeux de sport. On en consomme immensément.
Fait que là, le plan, ce serait de se jaser. Bon, là, c'est mardi parce que c'était férié. Mais le plan, si ça te va, serait de se jaser les lundis.
Ça me convient.
On trouvait que le timing était bon. Parler de la fin de semaine du Canadien.
Tout ce qui va s'être passé en général, la F1.
La F1, en effet. T'sais, moi, je vais le dire, là. Moi, ça se limite pas mal à NHL, NFL. Mais ce qui est le fun avec Coach Gilbert, c'est que lui, il suit de tout.
Tout.
Comme là, en fin de semaine, tu as écouté le tennis, j'imagine.
Ben oui, j'ai écouté le tennis. En fin de semaine, c'était le retour aussi de la F1 après le congé de 3 semaines. Tu parlais du Canadien tantôt. On va régler la F1. Ça a été vraiment une belle course en fin de semaine. Beaucoup de rebondissements. Malheureusement, on sait que Norris court beaucoup après Piastri, mais que là, Norris a eu un pépin à peu près à 10 tours de la fin, ce qui veut dire que malheureusement, alors que c'était très, très serré au championnat des conducteurs, il va y avoir maintenant une différence de 34 points, donc il va falloir qu'il se passe de quoi bientôt. Mais mis à part ça, on a eu Leclerc qui s'est fait... qui a eu un contact avec Colapinto. Après ça, on a eu Hamilton qui est rentré dans un mur. Fait que clairement, ça va être encore excitant d'ici la fin de l'année. Ceci dit, oui, il y a eu du gros tennis. Il y a eu l'histoire d'Aliassime en fin de semaine qui a été très excitante.
Je suis pas le tennis, mais quand c'est des petits Québécois de même là, qui rebondissent...
C'est pas les petits...
Des grands Québécois.
Des Québécois. Oui, mais exact, tout à fait. Ça a été vraiment un bon show. Puis tu sais, son histoire avec Zverev, c'est quand même... Je ne savais pas tous les détails que vous avez racontés tantôt.
Ben oui, c'est
ça vraiment intéressant.
C'est
là.
Jeff Fortin qui nous est arrivé avec ça, à quel point Zverev avait été un méchant baveux, envers au jeu Aliassime. Puis le grand Québécois... Il t'a remis ça d'en face.
Il est grand dans tous les sens, ça se dit. Mais puis tu sais, l'autre chose aussi qui est intéressante, c'est les Blue Jays. Tu sais, autant j'avais lâché prise un peu, mais depuis le mois de juillet, là, sont dans la course, sont première division dans l'Est. C'est vraiment bon ce que le baseball qu'ils jouent. C'est un peu une surprise là, qu'ils soient premiers dans cette division aussi forte. Évidemment, là, on a eu des petits pépins en relève là, en fin de semaine, mais du moins, on est encore dans la course. Puis, tu sais, parti comme c'est là, on devrait être en mesure de se classer pour les séries, ce qui va faire du maudit beau baseball d'octobre. Là.
Coach Gilbert, est-ce que Carey Price... ou du moins ce qui en reste, c'est-à-dire son contrat, est échangé par le Canadien cette semaine?
Ça risque d'arriver. Il faut être deux pour danser. Il y a des équipes qui pourraient avoir avantage à, mais au-delà de... Je pense que de pouvoir atteindre le plancher, c'est plus le problème de grand monde. Je pense que ça va être surtout de qu'est-ce qu'ils peuvent avoir en retour puis comment est-ce qu'on peut tricoter un tout qui va être intéressant pour tout le monde.
Parce que pour résumer aux gens qui suivent peut-être moins ça puis qui comprennent pas pourquoi le Canadien voudrait changer le contrat puis pourquoi une équipe en voudrait, ben il y a des équipes pour qui ça peut être intéressant de mettre la main sur un contrat sur papier de 10,5 millions alors que le vrai dollar que tu as à payer, c'est une coupe de 100 000.
2 millions,
c'est ça,
je pense.
Avec le bonus qui a été donné à Price hier, on avait encerclé la date du 1er septembre sur le calendrier pour ça. Et pour le Canadien, ben ça te permet d'entrer dans la saison sans utiliser ta liste des blessés à long terme pour respecter la masse. Puis ça, concrètement, comme je dis, sans entrer dans les détails, ça fait que chaque jour, tu peux accumuler de l'espace sous le plafond salarial puis éventuellement t'améliorer grâce à cet espace-là.
Si tu veux rentrer le deuxième centre en question, ben, il va falloir que tu aies de la place pour être capable de le faire jouer. Ceci dit, il pouvait à partir du 1er septembre. Maintenant, ça pourrait arriver n'importe quand dans l'année. Tu sais, je pense qu'une des grandes forces de Ken Hughes, c'est la patience, puis c'est d'aller chercher le deal qu'il veut. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'urgence. Ça pourrait arriver aujourd'hui comme ça pourrait arriver en février. Tu sais, ce jeu-là, est-ce qu'il y a une équipe à un moment donné qui va abandonner en cours de route pour aller maximiser ses chances pour être premier au repêchage l'an prochain, puis que rendu là, lui, il va accepter un choix de deuxième ou troisième tour en plus du contrat pour encore plus solidifier sa banque. Il y a bien des choses qui peuvent arriver. Là.
On va se reparler d'après moi dans les prochains jours. Tu sais, je sais que j'ai dit que c'était lundi, mais là, cette semaine, début de la saison de la NFL, jeudi. Vendredi, d'après moi, c'est une couple de minutes, mettre la table pour ce premier week-end-là, ça se pourrait.
Puis tu sais, l'autre chose, là, on parle du Canadien beaucoup, là. C'est-tu le fun de voir ce qu'on voit cet été? Les kids qui sont déjà tous arrivés, pas mal,
ben oui.
Qui jouent déjà tous ensemble, qui tu vois qu'ils sont conscients de quoi qu'ils embarquent, puis qu'il se passe quelque chose en ce moment, c'est vraiment, vraiment le fun de voir. Mais à part de ça, si on voulait péter notre petite bulle un peu, là, puis Lane Hudson qui n'est pas dans la liste pour les Olympiques, là,
c'est
épouvantable.
C'est ridicule. Puis il n'aurait pas fait l'équipe, mais ça n'a aucun sens. Ben, c'est parce qu'avec Quinn Hughes qui est déjà Adam Fox, tu ne peux pas avoir un autre petit défenseur.
Ben, je ne sais pas si tu as vu Spit and Chiclet en fin de semaine.
Non.
Lui, il dit Adam Fox, sors-moi ça sa tête. Là. Dans sa tête, à lui, il aurait tassé. Hey, parce que là, en avant de lui.
Dans 4 ans, oui.
Il y a Brock Faber, Adam Fox, Luke Hughes, Quinn Hughes, correct. Mis à part ça, il y a quand même plusieurs joueurs qui n'ont pas. Ouais. Pyong qui est là. Il y a bien du monde pour que Lane Hudson, tant qu'à moi, pour être là, ben en avant.
Ouais,
mais
ben
qu'il ne soit même pas invité au camp.
Non, ça, je la comprends pas non plus.
Je comprends pas.
Il aurait pas fait l'équipe, mais pas invité, je la comprends pas.
T'sais, oublie pas un facteur majeur. Là. On parle des Olympiques, on parle pas de la Coupe des Quatre Nations. Là. Ça joue sur une très grande patinoire.
Ouais.
Fait que s'il y a un endroit où Lane Hudson va être encore plus difficile à cogner puis où il va avoir le plus de place encore, c'est bien aux Olympiques, c'est fait pour lui. Là. Je peux pas croire. J'espère que quelqu'un va allumer puis qu'il va être aux Olympiques.
Coach Gilbert, merci beaucoup. On se reparle cette semaine.
Yes.
Audrey Pinchot arrive en studio. En fait, elle est déjà là. Puis c'est son segment, l'Open Mic, qui s'en vient dans quelques minutes. Dans le Point de Max. Le Point de Max. Tu cherches une job où tu as juste besoin de changer d'air, ben ça tombe bien parce que Costco recrute en ce moment pour différents postes dans ses entrepôts de Québec. Puis avec l'ouverture d'un tout nouveau Costco sur la rue du Marais en décembre, le timing est parfait pour toi. Ça t'intéresse? Participe à notre événement de recrutement du 9 au 11 septembre. T'as quelques jours pour y penser, mais à ta place, j'irai participer à cet événement-là. Si t'as besoin de plus d'informations, ça se passe au costco.ca dans l'onglet carrière. Costco, c'est une culture forte qui encourage la progression de carrière. On favorise la promotion interne. Des salaires compétitifs, d'excellents avantages sociaux aussi. Tous les détails, c'est au costco.ca, onglet carrière. Manque pas ta chance.
Entre les lunchs.
Dans le Point de Max, c'est l'heure de l'Open Mic avec Audrey Pinchot.
First time I tried an open mic, I knew.
Ah. 11h03. Presque à l'heure. C'est supposé être 11h, j'en suis désolé. C'est Coach Gilbert qui est parti sur Lane Hudson. Puis tout, c'était pas dans mes sujets du jour, mais Coach Gilbert voulait faire son point sur Lane Hudson. Fait que je l'ai laissé gentiment faire son point sur Lane Hudson. Mais c'est l'heure du segment Open Mic que vous attendiez. Parce que c'est toujours le fun de faire de la radio avec Audrey Pinchot.
Hey!
Comment ça va?
Ben, ça va bien.
Je suis contente.
Je suis tellement excitée pour toi, Max, là. Depuis ce matin, 6h tapante, je suis avec vous autres.
Ah ouais, hein? On est-tu pas pire?
Ah oui. Ah non, non, ça le faisait. Moi, je suis conquise. Pour vrai, là, j'avais hâte de voir comment j'allais vivre le « sans musique » entre gros guillemets, parce qu'on va se le dire, c'était déjà très épuré dans les derniers mois. Mais de vous entendre ensemble, de voir si la chimie est là, j'étais comme excitée. Je suis vraiment énervée. C'est vraiment jour de rentrer, puis je me sens comme quand je rentrais à l'école plus jeune. Là.
Ça a roulé en Simonac à matin, moi, de dire ça, là, et que, tu sais, veux pas, je pense qu'en effet, pour quelqu'un qui écoute... Le pas de musique fait peut-être pas énormément de différence parce qu'on n'avait quasiment plus. Mais tu sais, les moments où on avait, on veut, veut pas, on a comme notre petite routine de OK, à tel moment, ben on va pisser, mettons. Mais... À matin, les spots pour aller pisser, je les ai trouvés rares.
Il était short aussi, ouais. Hein? Mais c'est ça l'affaire. Je pense que ça fait une plus grande différence pour nous que pour l'auditeur. Puis peut-être que je me trompe, 88-971-1021, mais sincèrement, moi j'ai du fun depuis ce matin. J'avais hâte de t'entendre rentrer à 10h aussi. Félicitations pour ton show.
Merci.
J'ai pas eu l'occasion de te le dire en onde. Puis je suis contente de pouvoir venir m'asseoir avec toi tous les jours 11h.
La question que tout le monde se pose, tu vas manger quand pendant Gravel dans le retour?
Hey, j'angoisse. On peut-tu en parler deux minutes? Pour vrai, ça va vraiment changer nos habitudes. Puis cet après-midi, j'ai hâte de voir comment nous aussi on va s'habituer parce que l'équipe reste la même. On est l'équipe qui n'a pas bougé en fait dans la programmation. Mais nos habitudes justement vont se modifier un peu. J'ai comme l'impression que je vais manger dans Face à Denis ou pendant les nouvelles Aveiro.
Ce que tu faisais déjà un peu de toute façon.
Oui, mais tu sais, moi, j'avais les pauses ou les chansons pour de temps en temps peut-être prendre des plus grosses bouchées. Il va falloir que je revoie ma logistique de lunch.
Genre ce que tu manges.
C'est ça, okay. Pour que ce soit plus subtil. Tu sais, éviter ce qui fait du bruit, mettons. Ben, j'ai pas le choix de manger, c'est niaiseux. Hein. Il y a du monde qui pourrait dire, voyons, on dîne avant, reviens-nous. C'est comme mon gaz.
Oui, comme moi, je sais que là, il faudrait idéalement que je commence à déjeuner. Parce que là, je mange
Scratch.
Pas. Ben non, pas encore.
Ça
mais c'est ça, faudrait que je prenne l'habitude. T'sais. On me libère un peu là, pour vous amener dans les coulisses. On me libère un peu, évidemment, entre le peut-être 9h15 de Marceau le matin jusqu'à mon show pour avoir le temps justement de préparer un peu. Puis éventuellement de peut-être manger. Il faudrait que je mette dans mes habitudes de manger dans ce petit...
T'auras pas le choix de t'amener un lunch, quelque chose.
Aïe, amener un lunch, c'est-tu un cauchemar, ça?
Je sais que c'est horrible, mais Max, tu vas donner...
J'ai de la misère à manger chez nous.
Tu vas donner un adulte.
J'ai commandé de l'épicerie en fin de semaine, je me suis commandé des bleuets puis des fraises.
Wow, des fruits et légumes dans la vie de Max Larouche.
Ouais. L'affaire, c'est que j'ai tout mangé, fraises puis bleuets le premier jour.
Ah, ben c'est ça le problème.
Ouais.
L'affaire, c'est que là, il faut que tu te fasses plusieurs collations différentes pour pas tomber dans ces facilités-là. Parce que c'est ça l'affaire. C'est que dans le frigo, quand tu l'ouvres ou dans l'armoire, c'est ce qu'il y a de plus consommable rapidement qu'on a tendance à prendre. Fait que
hier,
des préparations.
J'ai aussi mangé 4 Pop-Tarts. Au chocolat, parce que ça aussi, c'était facile à manger.
Ton alimentation va pas tant bien, finalement. Pas tant un homme nouveau que ça.
Non, non, en effet. Fait que le segment Open Mic, c'est quoi ça, Audrey Pinchot?
Bien, vous le savez, si vous êtes auditeur depuis longtemps, dans la dernière année, l'Open Mic, c'était une émission de 10h à 11h30 avec Marceau. Une émission qui était plus possible, évidemment, parce que là, Marceau fait le soir, fait le matin. Maintenant, il faut comme qu'on le laisse aller dormir un peu puis respirer.
C'est ça, à son âge. Moi, je suis capable d'en prendre, là, mais à l'âge vénérable de Marceau, lui quand j'ai posé la question le matin, là, sa première réponse, ça va, là, il a demandé c'est quand qu'on peut aller se coucher.
Ouais, ben
là, j'ai dit à 10h, tu peux aller te coucher, Marceau.
Ça va être de l'adaptation, là, c'est sûr. Là. Les premiers mois risquent d'être difficiles pour Yann. Fait qu'on a tassé ce show-là. Puis je veux dire, tu méritais amplement la place de toute manière pour ton émission. Puis on s'est dit comment on peut garder une façon d'avoir une connexion avec, oui, l'auditoire, mais le côté peut-être un peu plus humain de ce qui touche les gens de Québec, que ce soit des parcours inspirants, quelqu'un qui est touché par une maladie plus rare, des métiers qu'on connaît moins, juste des sujets de notre day-to-day. Aujourd'hui, ça va en être un comme ça. Il va y avoir des invités de temps en temps. Des fois, il n'y en aura pas. On va juste prendre le temps de jaser, toi puis moi. Des fois, je vais me tourner vers les réseaux sociaux. Quand je me pose des questions, j'ai le réflexe de vous les poser. Fait que ça va être un mélange d'un peu tout ça, l'open mic. Ce qu'on faisait déjà un peu, finalement, sur 1h30. Mais là, on va faire ça en une demi-heure, toi et moi. On va essayer de faire ça en une demi-heure.
Les patrons font dire qu'ils aimeraient bien ça, qu'on essaye de faire ça en une demi-heure.
Ouais, on nous dit qu'on aimerait ça pas défoncer sur l'heure du midi, puis je comprends.
Ouais, puis pas non plus sur Pascal CV, qui chaque jour va nous préparer sa petite chronique actualité aux alentours de quoi? Aux alentours de ça dépend à quel point Audrey et moi défonçons. Mais on va essayer de respecter les règles parce que j'ai un show, j'aimerais ça pas le perdre.
Ben, on va se gérer. On va se gérer. Fait que les questions que vous avez, vous me les envoyez. Vous avez des idées de sujets, des idées de dossiers. On ouvre les lignes, en fait. C'est pas compliqué. C'est un peu ça, l'open mic. Vous avez le goût de participer aussi. Je dis on ouvre les lignes. Max, tu me permets, là, je suis chez vous, dans le fond, là, mais 780-1021, là. Appelez quand vous voulez dans le segment Open Mic. Je pense qu'il sert à ça à travers l'actualité qu'on vous sert dans la journée. Puis tu m'as fait réfléchir, Max, dans les derniers jours.
OK.
Je dois te dire que le sujet qu'on aborde aujourd'hui, il te revient parce que ça faisait 3 semaines. Ça faisait 3 semaines que tu étais sobre.
3 semaines et 2 jours.
3 semaines et 2 jours que tu prenais plus d'alcool.
Ouais.
J'avoue que je t'admirais parce que tu es la personne que je côtoie qui consomme probablement le plus dans une semaine en temps régulier.
Je m'admirais aussi parce que je ne m'en suis pas donné facile. J'ai commencé mes 3 semaines sans alcool la fin de semaine de Cigale. Tu sais, je veux dire, t'es sur le bord de la plage, il fait beau, j'ai bu de la Corona sans alcool. La semaine d'après Cigale, c'était l'assaut à Montréal. Ils te buvaient de la bière là-bas. Je buvais ma petite Heineken Zero sans alcool.
Oui.
La semaine d'après, Festival Country Lobinière. Si je pensais que ça buvait beaucoup à l'assaut, et tabarouette, j'étais pas prêt pour les beaux serons à Lobinière.
T'as pas choisi le temps de l'année. Tu sais, des fois, février.
J'ai choisi le pire.
Mais c'est ça, on va faire octobre. En février, il y a un mois sans alcool aussi. Ouais. Le monde se donne des défis ici et là, mais souvent, on dirait qu'on a tendance à choisir les mois où il se passe pas grand-chose.
Le pire, je le faisais juste parce que j'étais comme, hey, pour vrai, j'ai bu pas mal cet été. Pas plus que les autres étés. Mais j'étais comme, hey, on va prendre un break. Puis voir, puis essayer de prendre ces habitudes-là de pas boire, puis au pire, si je veux boire, ben ça existe, la bière sans alcool, puis tu sais, même nos amis de Distillerie Appalaches, là, à Lobinière, il y avait au bar des prêts à boire sans alcool. Puis, pour vrai, c'est pas mal d'un sans alcool les meilleurs que j'ai goûté.
Mais là, il faut que les compagnies arrêtent, par exemple, de mettre des suppléments dans le sans alcool, parce que je pense à Corona qui est remplie de vitamine D.
Puis ça dit que t'en as 2 maximum. Oui! Au Capital, j'ai bu de la Slim sans alcool. Ça, c'était des suppléments, je crois, d'électrolytes, puis ça disait pas plus que 2 ou 3 aussi.
T'es épouvantable.
En fin de semaine, c'est quoi j'ai bu en fin de semaine au tailgate du Rouge et Or? Ça, hey, j'ai été bon. J'ai bu 6 bières sans alcool. Qui fait ça dans vie, boire 6 bières sans alcool?
Personne.
Je me souviens pas c'était quelle marque. Je pense que c'était de la Sapporo sans alcool. Elle, il y a pas de supplément. Fait que c'est pour ça que j'ai pu me gâter puis en boire 6. Mais ce que je me suis rendu compte, puis c'est là qu'on arrive au moment où j'ai arrêté ma pause dimanche. Puis tu sais, c'est pas, en passant, tout le monde, je vais bien, c'est pas une rechute. T'sais, j'arrêtais de boire juste pour arrêter de boire. Il y en a qui ont vraiment des, entre guillemets, vrais problèmes avec ça. Puis j'admire ces gens-là qui vraiment arrêtent de boire parce qu'ils se rendent compte que c'est plus bon pour eux. Puis tu sais, moi, je prenais un break pour prendre un break. Puis pour vrai, je voyais des impacts, je crois, positifs sur mon énergie puis tout. Là. Mais dimanche, j'ai été invité à un pre-drink chez des gars que je connaissais pas, puis j'étais comme, ouais, c'est bizarre d'arriver là puis de pas boire. Fait que par je sais pas quoi, c'est-tu pression sociale d'avoir l'air weird d'arriver à un pre-drink puis pas boire, alors que j'aurais pu arriver puis boire de la sens... Il aurait même pas remarqué, là.
Non, il y a personne qui aurait posé de questions.
Juste par habitude de, ouais, je m'en vais à un pre-drink et je vais amener
c'est
de la bière.
Ça.
Fait que j'ai amené de la Corona, j'ai bu 6-7 Corona, j'ai bu une bière au bar à soir, puis là, le soir, puis là, je me réveille hier matin, je fais comme, j'ai même pas eu tant de fun que ça. Là. J'ai eu autant de fun tous les soirs, j'ai pas bu. Pourquoi
t'as
j'ai...
T'as mal à la tête, t'es brûlé, t'as mal dormi, mais pour rien.
Exact. Puis je me suis dit, crime, je pense que je vais re-arrêter de boire. Comme j'ai même plus le goût.
Puis j'admire ça, mais t'as-tu pris le temps de te poser la question du pourquoi derrière, mettons? Parce que tu vois, dans les dernières heures, dans la fin de semaine, quand tu m'as raconté ça, je me suis vraiment même questionnée sur, je vais appeler ça l'alcool et ses automatismes, là, pourquoi on boit? Je vous fais pas de morale à matin, là, je vous dis pas, vous devez prendre tant de consommation, rien à foutre de ce que vous faites avec vos habitudes de vie, là. C'est vraiment le principe de, moi, j'ai fait la réflexion du pourquoi je bois, dans le fond, mettons, quand je décide que je prends un verre, là, pourquoi je le fais? Puis je réalise que dans la majorité des cas, c'est soit pour décompresser, mettons, d'une grosse journée avec la fameuse phrase « Hey, je le mérite
ouais. ».
Ou quand j'ai besoin de me détendre. Exemple, il y a 2 semaines, je descends au Saguenay, c'est le 30e d'un de mes meilleurs amis de cégep. Il y a du monde là-bas au pied carré que je connais, mais que j'ai pas vu depuis des années. Puis moi, je suis pas à l'aise en public. Je sais que je suis une personne qui est super extravertie, là, mais je suis quand même gênée. Quand il y a trop de monde, je perds un peu mes repères. Ça me prend un peu de temps de déniaiser. J'ai besoin de... Même quand on fait ici, on est 50aine d'employés ici, mettons, chez Leclerc Communication, quand on se fait des 5 à 7, là, j'ai une tendance à aller manger retiré avec Marceau puis Denis. Là. Puis à un moment donné, je prends le pouls des conversations puis tranquillement, pas vite, j'intègre la société. Très extravertie, mais très gênée. Bref, tout ça pour dire que j'ai réalisé que j'avais tendance à prendre un verre dans ce temps-là. Le petit verre de vino devient comme nécessaire pour me calmer les nerfs puis pour ouvrir la conversation plus facilement. Ça fait-tu du sens?
Ben, je pense que oui, mais au-delà de ça, je pense que peut-être ça part de là, mais c'est juste rendu une habitude sociale.
100%.
Tu sais, puis il y a ça aussi dans le fait de... Qu'est-ce qu'elle m'apporte, dans le fond, la bière sans alcool, là? Oui, c'est, entre guillemets, bon. C'est pas buvable. Mais il y en a des pas pires. Mettons... Tu sais, au Rouge et Or, là, pourquoi j'ai bu 6 canettes de bière sans alcool? Je veux dire, j'aimais pas ça au point de dire « Hey, c'est délicieux, je vais prendre une autre canette. » Non, tout le monde autour a des canettes de bière.
Fait que tu veux quoi dans ta main?
Fait que je veux, puis même affaire à des shows de musique. C'est pas que j'ai besoin d'avoir une bière. J'ai besoin de quoi dans ma main?
Hey Max, je garde mes canettes vides.
Moi aussi, je fais ça.
Juste pour le principe d'avoir de quoi danser et bouger.
On est allé ensemble au Unity Electrofest vendredi. Puis j'ai pris dans la soirée une canette sans alcool.
Même chose.
Je l'ai gardée dans la main toute la soirée juste pour bouger parce que je suis pas à l'aise avec rien dans les mains.
Est-ce que c'est niaiseux? C'est-tu parce qu'on est habitué de toujours avoir quelque chose en main, lire ici le téléphone, puis on a besoin d'avoir
peut-être.
De quoi, à quoi s'accrocher, je sais pas. Puis je vous l'ai dit tantôt quand je me pose ces questions-là sur moi, on dirait que j'ai envie de me rediriger vers vous. Puis dans les dernières heures, j'ai décidé que je lançais un petit sondage sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, pour être plus précise, fait qu'il y a des gens de mon entourage qui ont répondu. Mais il y a quand même beaucoup d'auditeurs qui ont pris le temps de répondre. Je trouve toujours ça le fun parce que plus j'en fais, généralement, plus il y a de répondants. Mm-hmm. J'étais là avec une dizaine de questions. Je te donne les résultats. Ma conclusion de tout ça, je te la donne d'avance, Max, là, puis je vous le dis, les auditeurs, là, on est une belle gang d'hypocrites.
Ah, mais j'ai zioté, puis je l'ai vu assez tôt, le sondage.
Oh, non,
peut-être que l'échantillon n'était pas... Mais ça a été un peu ma réaction. J'ai même failli t'écrire en disant... Ouais, ben le monde n'est pas honnête dans tes affaires.
Absolument pas. Première question, pourquoi vous buvez de l'alcool? J'avais mis des choix de réponse quand même pour rendre ça facile. Numéro un, pour me détendre, pour le plaisir de boire ou par habitude sociale, OK? Pour me détendre, on est à 17 % Pour le plaisir de boire, fait que pour le goût, la dégustation, 52 % des gens qui disent boire pour cette raison-là. Et habitude sociale, 31 % Ça, j'y crois quand même, pour vrai.
Ouais, ben ça, c'est parce que t'as pas nécessairement de raison non plus de vouloir mentir là-dessus. Il n'y a pas de jugement,
l'impression,
par rapport à... En passant, n'hésitez pas, 88-971-1021, si vous avez des réactions ou si vous voulez répondre à certaines des questions.
Sur le Twitch, Maëlia, ça arrête le petit hamster dans ma tête. C'est pour ça que je bois des fois. Il y en a que c'est pour oublier. Il y en a, tu sais. Puis ça, c'était ma prochaine. Dans quelle situation tu consommes le plus d'alcool? Pour célébrer, 51 %. Pour oublier ou par besoin, 2 %. Ça parle beaucoup, 2 %, là. Mais je trouve ça triste quand même qu'il y ait 2 % des gens qui aient pris le temps de répondre qui consomment pour oublier ou par besoin. C'est quand même long.
La réalité, c'est plus que ça, là.
Mais oui, pour décompresser, 37 %. Pour moi, ces deux catégories-là se fusionnent assez bien.
Absolument.
Et par habitude, 10 %.
Tu vois, moi, je pense que ça serait quasiment par habitude. C'est ce que je décrivais tantôt, d'être dans un show, d'avoir besoin de la petite bière.
Je vais au resto, je prends un verre de vin.
Ouais, je suis pas entre amis. Tu sais, juste, on avait une rencontre d'animateurs jeudi passé. Puis tout le monde avait une petite bière autour de la table. Moi, j'avais mon petit Perrier. Parce que j'étais encore dans mes grosses résolutions. Mais juste par habitude, on se rencontre en gang, ça te prend ton petit verre dans les mains.
Tu consommes-tu la semaine quand tu consommes?
Jamais.
Jamais?
Ben, jamais, sauf justement des... Puis là, le sauf est ironique, là, mais sauf à des événements justement de job des fois. Mais sinon, pour vrai, c'est très, 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 très rare que je consomme la semaine.
27 % des gens consomment la semaine. 33 % consomment rarement. Puis il y a 40 % des gens qui sont catégoriques puis qui disent « Non, moi, la semaine, il n'y a aucun alcool qui rentre à la maison. »
Je dois dire que si je faisais pas le matin, ce serait différent. Là, c'est juste que avec l'horaire que j'ai... Je prends une, deux bières, c'est assez pour scraper ma semaine au complet. Là.
Est-ce que tu penses que l'alcool est un automatisme? Je pense que ça revient un peu à ce qu'on se disait.
L'habitude.
Moi, oui. 16 % des gens disent souvent. Parfois, 26 % et 58 % des gens qui ont répondu disent que rarement l'alcool est un automatisme dans leur vie, ce que je trouve quand même positif si les réponses sont réelles.
Ouais, c'est ça.
Avez-vous déjà fait une pause d'alcool? Ça, je trouvais ça intéressant parce que je me suis rendu compte que j'ai déjà fait un genre de 3 semaines, un mois, un peu dans la même lignée que toi, juste en me disant, bon, ça va peut-être aider un peu mon sommeil. Je considère pas que j'ai un problème avec l'alcool ou avec le fait d'arrêter. Peut-être avec le pourquoi j'en prends, ça, je le donne. Tu vois, 60 % des gens disent qu'ils ont déjà fait une pause. 40 % quand même des gens disent qu'ils n'ont jamais cessé de boire, même pas pour un mois ou les fameux octobre et compagnie. Il y a tellement de sensibilisation en plus. T'sais.
C'est qu'à un moment donné, si tu sens que tu n'as pas nécessairement de problème puis que ta consommation, tu trouves qu'elle est bien correcte, puis de prendre ton petit verre la fin de semaine ou... Tu sais, moi, honnêtement, j'ai arrêté parce que, pour vrai, cet été, j'ai bu beaucoup, puis je faisais pas le matin, puis là, la bière de semaine, c'était... sans dire que c'était tous les soirs. J'avais des raisons tous les soirs. Puis quand j'avais des raisons, ben je veux dire...
Mais prends juste le Festival d'été de Québec. On est sur la grande allée, on anime de là. Je veux dire, c'est du day drinking, là. Ça n'a pas de bon sens, là.
Mais, fait que c'est ça. Fait qu'en bout de ligne, j'étais arrivé à un point où je me suis dit, OK, là, un petit break, ça va faire du bien. Pas que j'ai un problème, juste j'ai bu beaucoup cet été, puis à un moment donné, ça peut pas être positif, là. Fait que, mais quelqu'un qui dit, hey, regarde, moi, pour vrai, je prends une bière un vendredi sur deux, il n'y a pas de raison de faire de pause, entre guillemets.
Il y a 80 % des gens qui ont répondu à mon sondage qui ont dit être capables de cesser de boire pendant un mois facilement. Il y a des gens pour qui ce serait difficile, mais oui, on est à 19 %, puis il y a quand même 1 % des répondants qui disent que eux autres cesser de boire, même pendant un mois, c'est pas quelque chose qui est potentiellement possible. Si vous êtes réticent d'arrêter, pourquoi? Je me posais la question parce que je me la suis posée à moi. Est-ce que c'est quelque chose que je voudrais? Puis on va se le dire, on est réticent au changement. Là,
oui.
J'ai demandé aux gens en question ouverte, il y a plusieurs réponses qui sont revenues. Celle qui revient le plus, c'est l'habitude à casser. Il y a du monde qui disent, moi, j'ai même pas le goût de prendre la peine juste parce que ça me tente pas de créer cette habitude-là. On a déjà assez de changements à faire dans notre vie au quotidien pour avoir de bonnes habitudes. M'a priorisé, mettons, l'alimentation à l'alcool, au final, tu sais. J'aime boire au restaurant. C'est une des raisons qui est sortie. Il y a des gens qui disent que ça leur fait peur, que le verre fait du bien. J'aime trop ma bière d'après-job. C'est quand même revenu beaucoup, ça, je dois
c'est
le dire.
Encore,
là.
Ça existe encore.
Oui, ça évacue le stress. Fait qu'il y a des gens qui sont réticents à arrêter de boire pour ça. Ça calme les démons. C'est beaucoup des choses comme ça qui reviennent. Fait qu'encore là, dans ma question du pourquoi on boit, je trouve ça quand même intéressant que les gens se livrent à ce point-là. Moi, j'ai peur de ne pas avoir de fun si je bois pas.
Ben c'était ma peur il y a 3 semaines. T'sais, je me disais, OK, là, je m'en vais à Cigale.
Ouais.
Je vais-tu avoir du fun? Sans... Parce que je veux dire, des festivals, d'habitude, c'est rare, je vais à des shows. Puis je dis pas me saouler chaque show, là. Mais prendre 1, 2, 3 bières, non, tu vois
sois
un show.
Sois à l'aise
show,
de répondre à ma question, Max, mais est-ce que tu as été capable d'aller dans ces shows-là, ces festivals-là, complètement à jeun ou tu t'es retrouvé vers une consommation X, Y, Z?
Cigale, je l'ai fait complètement à jeun. L'asso aussi, le Binière aussi. Ouais,
OK, c'est... sans non. problème.
Mais je vais pas te cacher que des fois, j'aime le petit cannabis à l'occasion.
Ah, puis t'es pas tout seul, là. Il y a beaucoup de gens qui, quand ils consomment pas d'alcool, vont se revirer vers ce type de consommation-là. C'est 20 % des gens qui ont peur de pas avoir de plaisir sans alcool, quand même, là. Une personne sur 5.
Puis c'est vrai que c'est une adaptation au début, là. C'est vrai que le feeling, tu sais, puis tu le sens, en tout cas, moi, je le sens, mettons, tu vois, un festival, puis là, le DJ ou le chanteur, whatever, te demande de sauter, puis de lever les bras, puis de... Quand t'as un peu sa brosse, tu le fais, puis tu te poses pas de questions, t'embarques dans la vague, tout le monde est là, tout le monde a du fun. Quand t'es à jeun, moi, quand je suis à jeun, de me faire dire de sauter, puis de crier, puis de... j'embarque moins pas mal.
Bien, ça, puis le fait de te sentir un peu rejet, à part du mood général.
Ouais.
Tu sais, il y a un moment où c'est le fun, une soirée où tu bois pas, c'est pas grave. Mais dis-toi qu'en disant à 23h le soir, quand tout le monde est chaud, raide, puis toi, t'es encore bien à jeun, tu te sens plus autant impliqué, mettons, là, dans la... ça, c'est personnel, je parle de moi, là. Puis c'est pas une incitation à boire ou ne pas boire en passant la discussion qu'on a en ce moment, mais ma réalité... personnellement, c'est ça. Puis ça fait partie des questionnements. J'ai terminé mon sondage, Max, en demandant aux gens votre budget alcool par semaine. Et c'est là qu'on a des menteurs anti-pépère, on va dire. Là.
Ouais, parce que, je veux dire, c'est pas donné. Là. Autant, même si tu vas juste au dépanneur ou à l'épicerie, c'est cher, mais au resto, c'est parce que ça n'a pas de maudit bon sens. Là.
C'est des 9$ la bière, je veux dire. C'est entre 20$, moins de 20$, c'est 50% des gens. 20, 50$, 34% des gens. Puis plus de 50$, 17% des gens. C'est en quoi je crois pas du tout. On a quelqu'un au téléphone?
Ouais, allô, Boulevard?
Allô?
À qui on parle?
Nadine.
Pardon?
Oui, c'est Nadine. Pourquoi?
Ben, vous nous appelez, Nadine? Avez-vous quelque chose à nous dire?
Ah, oh, excusez-moi, c'est une erreur de numéro.
Ah, ben, Hé, Nadine, j'ai une question pour vous.
Oui?
Est-ce que vous consommez beaucoup d'alcool dans une semaine?
Ça dépend.
Ça dépend? Est-ce que vous en consommez pour le plaisir ou c'est un besoin?
Pour le plaisir.
Pour le plaisir? Bon, ben, je suis rassurée. Continuez de prendre votre petit verre de vin, votre petite bière. Bonne journée, Nadine.
Salut.
Salut.
Merci,
bon, ben, c'est bien constructif.
J'aurais peut-être dû dire que t'es en onde, hein? Pour ça. Donc, c'est ça. Les gens disent que le moins de 20 $ c'est 50% des gens qui disent que c'est ce qui consomment d'alcool. Puis
moins
j'ai de 20... à le croire.
Parce que moins de 20$, les amis, là...
Mais en resto, à la maison, peu importe, là.
Ben, moins de 20$, t'as pas deux pintes au resto à cette heure avec le type pétard. Mais t'sais, non. À moins, il y a des spéciaux, là. Puis bon, des fois, 7-8$, ajoute à ça le type, les temps. mettons que pour 20$, tu as deux pintes, c'est beau, là.
Oui, c'est tout, là.
Fait que si tu dépenses moins de 20$ par semaine, c'est
une
4...
Une bouteille de vin?
C'est... Fini, non, c'est ça, défoncé. Exact. Ouais, non, je pense que les gens... Une dose... Hey, c'est rendu qu'une dose d'alcool, là...
C'est cher.
C'est... Mettons... Puis là, à cette heure, ils font toute la même affaire. C'est tout le temps deux doses pour temps ou deux, six. En tout cas, faut tout le temps t'en prendre deux, là, sinon tu te fais vraiment avoir. Ça revient quasiment moins cher d'en prendre deux, six ou deux doses. Bref, une dose, c'est... 25-26$, là.
Non, non, le budget défoncé vraiment rapidement. Puis tant mieux si vraiment vous consommez moins de 20$ d'alcool par semaine. Chapeau, mais moi, je sais que je rentre pas là-dedans. Il y a plusieurs textos, Max, qui sont rentrés. Mais je trouve que c'est ça, ça amène une réflexion. Tu sais, il y a beaucoup d'articles qui sont sortis dans les dernières semaines sur le fait que la nouvelle génération consomme moins ou différemment. Et les ventes de bière qui ont diminué depuis 2019. Puis quand je parle de la nouvelle génération, je parle de la Z, là, entre 97 et 2012, ça en fait partie.
La mienne.
Max, la tienne, là. Puis il y a quatre points qui reviennent au pourquoi la nouvelle génération consomme moins. Je trouvais ça quand même intéressant. Un, il y a une plus grande conscience de la santé puis du bien-être en général. Préoccupation économique.
Ça, ah ben c'est sûr énormément. Que... Puis c'est drôle, on parlait ce matin avec Marceau, puis vous l'avez certainement déjà entendu sur nos ondes parler de tous les rabais qui existaient dans son temps dans les bars. Là.
Oui.
Tu sais... De boire, puis de t'en sortir en bas, mettons, tu sais, de virer une brosse, là, puis de t'en sortir que ça t'a même pas coûté 30$. Aujourd'hui, oubliez ça, là. Aujourd'hui, au bar, puis même si tu pre-drink avant, puis que t'arrives au bar un peu chaud, tu prends une coupe de bière, une coupe de shot, une soirée au bar, c'est rare une bonne soirée. Là. T'arrives là vers 10-11h, tu repars à 3h, là.
En bas de 100$,
là? C'est pas mal ça que j'allais dire, là. Oui. En bas de 80-100$, je considère que j'ai été sage.
Fait que... Bonne conscience, santé, bien-être, ça en fait partie. Préoccupation économique, l'essor du sober curious, on en parle, là, tout ce qui est alternative sans alcool, c'est de plus en plus populaire, même que c'est ce qui sauve la microbrasserie en ce moment. Tu sais, la micro, c'est des hauts et des bas, veut pas les ventes, là, puis je vous l'ai dit, les ventes de bière diminuent depuis 2019. Ben, le fait de se renouveler puis de faire du sans-alcool, ça leur sauve le derrière. Là. Puis ben, nous, on apprécie ces alternatives-là de plus en plus. Tu sais, avant, là, je veux dire, t'avais le malheur de prendre un sans-alcool. Moi, je me suis fait souvent demander « Est-ce que tu passes t'es enceinte? »
Ah, mais ça, puis on l'a pas abordé encore, mais je suis content que tu le dises, parce que oui, pour les femmes, ça doit être la question qui revient souvent. Mais pour moi, ce qui me gossait, c'est juste d'avoir à expliquer comme si c'est toi qui n'étais pas normal. Puis avec, tu sais, je le comprends, c'est vrai que, puis surtout moi, là, je veux dire que tout le monde me voit commencer à boire du sans-alcool. Je comprends que ça vient avec des questions, mais ce que je faisais beaucoup à ce moment-là, c'est me mettre à la place de quelqu'un, mettons, qui arrête parce qu'il y a vraiment des problèmes puis qui veut vraiment arrêter définitivement parce que il y a ses démons puis l'alcool fait partie des... Puis je me mets, puis je fais comme... Hey, c'est lourd pour ce monde-là. Là.
Ah, c'est vrai,
qui arrêtent de boire, mais puis qui doivent s'expliquer sans cesse pourquoi ils arrêtent de boire.
De faire challenger constamment.
C'est, pour vrai, c'est quasiment ça que j'ai trouvé le plus lourd. Puis c'est pas avec des mauvaises intentions. Là. Souvent, le monde me félicitait quand je disais, oh, c'est juste, je trouve que j'ai bu beaucoup cet été. Une couple de fois, j'ai exagéré.
Moi, ce que je trouve touché, c'est tu sais quoi, puis je vous vire la question, parce que ça fait beaucoup réagir au 88-971-101. Peut-être que Max, tu voudras lire une couple de textos, là, mais... Si vous buvez plus depuis longtemps, là, mettons que vous consommez plus, là, vous êtes sobre depuis, je sais pas, 2, 3, 4, 5, 6 mois, chapeau en passant à la base, là, est-ce que ça vous tanne de vous faire... Est-ce que vous, en fait, première question, est-ce que vous consommez du sans-alcool? Parce qu'il y en a pour qui c'est un démon, juste le goût de la bière ou le goût d'un gin sans-alcool, ou il ne faut pas qu'il s'approche de ça. Là, c'est au pétillant, au rien. Ouais. Est-ce que vous consommez ou pas? Parce que moi, c'est toujours là qui est mon malaise, quand j'ai quelqu'un qui ne boit pas, qui vient, mettons, dans un souper ou que je croise socialement. Je peux-tu t'offrir un sans-alcool ou c'est assez tentant pour te faire retomber?
Ouais. Ouais, je sais pas, hein?
Ben, 88-971-1021, moi, j'écoute, j'ai pas ces problèmes-là, fait que je peux pas répondre.
Moi, je sais que si j'arrête de boire, mettons définitivement, là, puis j'en suis vraiment pas là, mais ça va toujours, j'ai l'impression de prendre mon petit sans-alcool, parce que c'est pour moi, c'est tout le contraire de t'ordonner le goût. C'est moi, quand je bois ça, je suis bien, tu sais, tu te sens en gang, tu sais, limite, sans dire qu'il y a un effet placebo, mais tu te sens... plus dans le party, j'ai l'impression, juste parce que tu bois de la petite bière sans alcool, tu as le goût
aussi
de la bière. Puis, tu sais, au Rouge et Or, samedi, je reviens avec cet exemple-là, mes six canettes de sans alcool, là, Ça a aucun effet sur mon corps. Là. Puis c'était même pas de la 0.2 qui fait qu'en bout de ligne, même la 0.2, on s'entend, je serais jamais venu chaud, là, mais c'était non. De la 0.0. Ça pour dire que juste d'être là, de faire partie de la gang, d'en boire de la bière, ben, mais c'est vrai qu'il y en a pour qui ça peut peut-être...
Tenter le diable, carrément.
Exact.
Dernier point qui fait que la dernière génération consomme peut-être moins, c'est la socialisation en ligne. Le fait qu'on socialise sur nos téléphones, sur nos plateformes de médias sociaux, puis que dans le temps, ben, il fallait que tu sortes. T'sais, pour ouais. être capable de voir ton monde, voir tes amis, ça revient beaucoup, beaucoup. Puis ça revient par texto aussi. Là, je vous lis un peu en diagonale, je vais prendre le temps, mais que je quitte le studio. Mais il y en a une couple qui te disent, Max, ça, tu vas voir en vieillissant, puis avec le temps, il y a d'autres choses qui prennent place, puis tu bois naturellement moins. Là.
Non, exactement. Fait que ça fait le tour, beaucoup de réactions. C'était le premier segment Open Mic. Du Point de Max avec Audrey. Soyez là chaque jour, 11h, ben pile ou le plus pile possible.
Oui, oui, on va essayer. Moi, je vais être là. Fait que c'est à toi de te gérer, la roche.
Sois là à 11h, puis pour le reste, je vais me gérer.
Hey, demain, on va recevoir notre première invitée.
Oh.
Puis je trouve ça le fun. Ça va être un essai parce que ça va être une belle table ronde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer encore une fois. Cynthia Brunel, qui est Tana Doula.
Qui est quoi?
Tana Doula. Vous connaissez certainement les doulas qui sont des accompagnateurs, accompagnatrices de naissance. Ben, Tana Doula, c'est des accompagnateurs, accompagnatrices de fin de vie. L'aide médicale à mourir prend de plus en plus de place. Et donc, il y a maintenant des formations carrément qui se donnent pour être accompagnateur de fin de vie. Je trouvais ça quand même intéressant de discuter de ça avec elle. Fait que ce sera le sujet de demain. Si vous avez des suggestions très ouvertes en passant, vous pouvez écrire sur le Facebook de Boulevard, mais vous pouvez m'écrire personnellement aussi. Tout sujet qui touche l'humain de près, de loin, qui touche l'actualité humaine aussi. Vous vous gênez pas.
Merci beaucoup, Audrey.
Salut, là!
88-971-102, le numéro pour nous texter. Au retour, on fait un tour des nouvelles parce que le témoignage de François Legault à la commission Galant n'est pas terminé, ça se poursuit. On fait une petite mise à jour, puis il y a aussi l'ami Pascal CV qui va passer nous voir dans les prochaines minutes avec son dossier d'actualité du jour. Vous écoutez le Point de Max à Boulevard 102.1. Il est 11h30. Le Point de Max. 11h35 minutes dans le Point de Max. S'il y a quoi que ce soit, 88-971-1021, c'est le numéro. Pour me rejoindre en studio, comme plusieurs l'ont fait dans la dernière demi-heure ou à peu près, c'était la première de l'Open Mic avec Audrey Pinchot. Tous les jours, du lundi au vendredi à 11h, un sujet plus humain. J'ai l'impression qu'on va aller un petit peu partout avec Audrey. En gros, si vous écoutiez l'open mic dans le temps avec Audrey Pinchot et Yannick Marceau, ben c'est pas mal ça que ça va être, sauf que ça va être concentré sur à peu près 25 minutes, une demi-heure. Toujours le fun de faire de la radio avec la pétillante Audrey Pinchot. Et parlant de pétillante, il y a la tout aussi pétillante Pascal CV qui va venir me rejoindre dans les prochaines minutes pour nous présenter son petit dossier d'actualité du jour. Ben, de voir de quoi Pascal va nous parler aujourd'hui. Dans l'actualité, il y a quand même quelques sujets à traiter, notamment, puis on va revenir là, sur le témoignage de François Legault à la commission Galant sur le fiasco. Ça clique évidemment dans les prochaines minutes. Mais pour l'instant, on nous informe là, du côté du syndicat du personnel du séminaire Saint-François que les professeurs, les enseignants ont voté en faveur de 5 jours de grève à 98%. On dit que ce sera exercé là, au moment opportun. On parle de 57 professeurs. On accuse l'école d'avoir décidé à la rentrée de changer unilatéralement les conditions de travail du personnel enseignant, notamment au niveau des horaires de présence au bureau et de l'heure de dîner. Convention collective qui est échue depuis 2024, depuis le mois de juin 2024. Ce que le président du groupe syndical Marc-André Perron dit, là, cité par le Journal de Québec, c'est que les changements imposés compliquent le travail, viennent miner l'autonomie professionnelle. Donc, les profs du séminaire Saint-François du côté de de Saint-Augustin-de-Desmaures qui vote à 98% pour 5 jours de grève à être exercé au moment jugé opportun. Aussi dans l'actualité, gros dossier ce matin du Journal de Québec, d'importants dépassements de coûts qui sont observés sur des chantiers d'hôpitaux du Québec. Ce qu'on nous dit, c'est que 8 projets ont connu des dépenses supplémentaires pour un total de 1,2 milliard de dollars. Sur 14 chantiers hospitaliers en cours de réalisation, c'est plus de la moitié qui enregistre des dépassements de coûts. On parle d'une hausse de coûts globale de 20%. Et évidemment que quand on parle de dépassement de coûts ces temps-ci, ça fait réagir. On est en pleine commission Galant sur le fiasco. Ça clique. On entend dire que la transformation numérique en santé, il y a déjà des dépassements de coûts, il y a déjà des délais à prévoir, puis on en parle déjà d'un fiasco Saclic 2.0, mais là, on a un peu le bras dans le tordeur, puis on n'a pas le choix d'aller de l'avant, parce qu'à un moment donné, quand ton système n'est même pas capable de payer tes employés, c'est sûr qu'il y a des choses qui doivent être mises à jour. T'as pas le choix de déplier maintenant de quelle façon tu le fais. Est-ce que t'as des bonnes pratiques? Ça, c'est autre chose. Peut-être qu'on aura une commission, je sais pas quoi, sur le fiasco de la transformation numérique en santé éventuellement aussi. C'est à suivre. Mais tout ça pour dire que dans la dernière heure ou à peu près, on s'est entretenu avec le professeur agrégé au département de management de l'Université Laval, Pierre-André Hudon. Il est cité dans l'article du Journal de Québec ce matin. Puis en gros, la question qu'on avait, c'est comment on évalue une facture d'un gigantesque projet au Québec? Puis après ça, la deuxième question qui vient, c'est pourquoi on se trompe tout le temps? Puis y a-t-il quelque chose à faire avec ça? Fait que discussion bien intéressante avec Pierre-André Hudon qui va se retrouver sur le blvd.fm dans les prochaines dizaines de minutes, aussitôt que je passerai le micro à Jeff Fortin et Pascal CV pour On en jase le midi, la première. Il y aura Antonine Iacarini qui va être là également. Il y a Rémi Villemur qui va passer faire son tour également. Et j'ai mentionné Pascal CV, avant de se jaser ensemble du témoignage de François Legault à la commission Galant qui continue d'avancer, ben on va rejoindre Pascal CV directement de devant moi en studio. Pascal, comment ça va?
Salut, on rejoint Pascal CV en direct de Québec.
En direct de devant moi.
De devant toi. Salut, Max.
Ça va bien.
Ça va bien, bonne rentrée.
Merci, toi aussi.
Un bon point de Max aujourd'hui, bien rempli.
OK, oui, on voulait pas rater notre shot, c'est la première, le monde écoute. Demain risque d'être plus boboche un peu.
OK, donc
j'ai
ça va
tout mis aujourd'hui. Okay. Le reste de la semaine va être ordinaire.
OK, vendredi, ça veut dire
et vendredi,
ça va être la débandade.
Et tabarouette, vendredi, je pense que j'amène le coach Gilbert, puis on parle de sport pendant une heure.
Ben je m'en viens avec vous autres. Ça veut dire qu'on va parler de foot, parce qu'officiellement, on peut en parler maintenant. On est dans cette saison-ci.
Ben oui, ça commence justement jeudi, premier week-end de NFL. D'après moi, ouais, nous autres, lundi, ça se peut qu'on en jase, toi et moi.
Gros week-end aussi pour le Rouge et Or en fin de semaine. Puis là, je me suis dit, hey, tant qu'à être dans quelque chose de target avec moi-même, c'est les sports. Hein? Puis tu
ben
sais
oui.
que j'aime beaucoup les histoires avec le sport. Je sais pas si tu as vu passer la polémique en ce moment sur le web. Quant à un voleur de casquettes.
Ouais, ben c'est ça. Ce qu'on se rend compte présentement, c'est que si tu es un PDG d'entreprise puis que tu sors en public, t'as intérêt à te tenir tranquille.
Ben, je me suis noté Andy Barron. Vous vous souvenez de ce PDG-là d'entreprise qui s'est fait prendre à Coldplay en plein adultère avec cette femme qui n'était pas la sienne, finalement, qui a été filmée sur des écrans, puis ça a fait le tour du web. On peut revenir à une époque où le cellulaire était beaucoup moins catastrophique en termes de mariage ou en termes de baisse à la bourse pour une entreprise, mais on est vraiment dans cette ère-là où tout est scruté à la loupe.
Oui.
Puis il y a eu une deuxième frasque de PDG dans les derniers jours. En fait, cette fois-ci, il s'agit d'un homme qui s'appelle, j'aime un peu le dire son nom, mais c'est sûr que je me trompe à chaque fois, Piotr Serczak. OK? On va l'appeler comme ça.
Un Québécois de souche.
Ah oui, oui, Piotr. Mais c'est un PDG d'entreprise de pavage américaine et c'est Drug Brock, son entreprise. Ce qui s'est passé, c'est qu'au US Open, il y a un jeune qui tripe sur le tennisman polonais Kamil Marczak. Et lui, il se dit, je vais être en avant puis je vais attraper la casquette. Un peu comme au Capital, tu veux attraper la balle. Peu importe, dans un événement sportif, c'est quelque chose qui se rue sur toi. T'as envie de l'avoir.
Ben, comme au hockey, quand un joueur, mettons, est nommé la première étoile, puis là, il arrive quelque part, puis là, il a son bâton, puis il veut donner son bâton à quelqu'un, mais là, il pointe le petit kid, là.
Il a spoté son enfant.
Mais t'as souvent des messieurs qui rôdent un peu autour puis qui essayent d'en passer une petite vite.
Il y a une loi non écrite que s'il y a un enfant à côté de toi qui souhaite avoir l'article sportif, tu lui donnes, tu comprends?
Oui.
Puis cette loi non écrite-là n'a pas été respectée par cet homme-là. Il a littéralement arraché la casquette du tennisman qui était d'abord pour le jeune, des mains de ce jeune-là. Sauf que l'affaire, il était filmé. Fait que ça fait en sorte que le jeune admirateur n'a pas réussi à avoir sa casquette. Il se l'est fait voler. Ça fait le tour du web et sans faire le tour du web, on n'est pas où on est aujourd'hui.
C'est ça qui est le fun à cette heure, hein? C'est que il y a une couple d'années à peine, là, ça serait passé dans le beurre, puis le trou de cul aurait gardé sa casquette, puis le petit gars aurait été déçu pour le reste de sa vie.
Il s'en serait souvenu toute sa vie, mais les images ont fait le tour des réseaux sociaux et plusieurs ont dénoncé, un, les gestes de l'homme, mais aussi l'homme en question. Je vous répète, cet homme-là est PDG d'une entreprise assez connue de pavage américaine qui est en bourse, Piotr Zertrek. Piotr, lui, il a fait le tour du web et maintenant sa compagnie en bourse a chuté de 15 % après l'incident. Ensuite, il s'est excusé, il a fait un grand message pour dire qu'il aimerait s'excuser auprès du garçon qu'il a lésé, de sa famille, des partisans, du joueur aussi. Il dit « j'ai commis une erreur grave ».
Puis à la base, ça, il voulait pas le dire. À la base...
C'est parce qu'il a fait le tour des réseaux sociaux qu'il a commencé à être un petit peu plus fautif
à ses yeux. Même après, au début, quand ça commençait, il a quasiment remis à la faute sur le petit gars de ne pas l'avoir pris. Puis, voyons donc.
À
un moment donné, j'imagine qu'il y a des gens autour de lui qui ont dit « Hey, c'est parce que tu vas tout perdre. » Fait que...
Ça, c'était vendredi dernier. On en parle encore aujourd'hui.
Fait que pile sur ton orgueil puis excuse-toi.
Oui, puis il a dit « Ça a été douloureux. C'est une bonne leçon d'humilité pour moi. C'était nécessaire. Mais c'est sûr que quand ton visage est un peu partout, ça fait la différence. L'affaire, c'est que le tennisman Kamil Marczak au US Open s'est dit « Oh, j'ai vu la scène, moi, puis j'en resterai pas là. » Ce qu'on a appris dans les dernières minutes, c'est qu'il a rencontré le jeune, ils ont pris des photos ensemble, et il a redonné une casquette. Donc, heureusement, le jeune a été récompensé malgré tout. Celui qui a montré en fait plus de maturité, c'est ce petit gars-là au US Open vendredi dernier.
Puis le joueur également, puis ça, c'est la beauté des réseaux sociaux. Comme je disais, il y a une couple d'années... Ça, c'était... Mettons que c'était filmé à la base, ça passait à la TV. Il y a une couple de fans de tennis qui le verraient puis qui s'en rendraient compte puis qui disaient « Bon, ben garde le colon qui vient de voler la casquette du jeune. » Puis ça en serait resté là. Là, tu l'as dit, c'est arrivé il y a quelques jours déjà. On est rendu mardi, on en parle à une radio de Québec. Ça a fait le tour du web au point où le gars a comme pas eu le choix de dire « Ouais, mais m'excuse, finalement, t'es pas correct ce que j'ai fait. » La queue entre les deux jambes. Puis le petit gars a pu rencontrer son joueur de tennis. Fait que ça peut être beau, les réseaux sociaux aussi.
Oui, ça peut être beau, mais sur certaines, si t'es n'importe qui dans le monde et t'agis comme une espèce de raton laveur, tu vas te faire pogner par le web. Il y a des caméras partout maintenant.
Ouais.
Et c'est encore un PDG en bourse qui en a payé le prix pour ses comportements malveillants. C'est pas drôle, là, ça, là, ce qui s'est passé. Je veux dire, un petit jeune qui se fait barouetter pour se faire arracher une casquette, on se souvient.
Là, tu parles de caméras partout. Puis toi, est-ce que t'as été suivi en fin de semaine. Là, tout le monde se demande là, par Twitch là, comment ça a été ta montée du Kilimanjaro Junior en fin de semaine.
OK, parce que je me suis entraînée beaucoup en fin de semaine.
Ben oui, t'es allé monter des montagnes.
Oui, deux fois le Mont-Saint-Anne en une journée. Ensuite, le Mont-Wright et les escaliers.
C'est où le Mont-Wright?
C'est du côté de ton âme quand tu continues. Ah. Fait que j'ai donné une petite go là, en fin de semaine, effectivement.
Tu pars quand?
Je pars le 26 septembre. Ça s'en vient. C'est dans moins de 24 jours maintenant.
Puis tu pars combien de temps?
Je passe 3 semaines.
OK.
Ouais, 3 semaines. Mais le Kilimanjaro, c'est 9 jours.
OK. Oui. T'as étiré tes vacances.
Mais j'aurais
un
dû
peu,
dire
là.
C'était 9. Oui, mais avec le voyagement, c'est quand même en Tanzanie. Donc, se rendre en Afrique, on est à 2 jours de voyagement in,
ouais,
out.
OK. Oui.
On a quelques jours de repos par la suite.
Tu vas faire quoi?
Me reposer. J'écoutais des vidéos, c'était peut-être la pire idée là, la semaine passée. Je me disais, pour m'endormir, parce que j'avais des grosses semaines, je vais écouter des vidéos du Kilimanjaro, je vais voir les belles vues. Max, tout ce qu'il y a sur YouTube, c'est la pire semaine de ma vie. En route vers la mort, les gens manquent d'air, sont fatigués, puis ils ont un étau sur la tête qui se serre, puis ils sont en train de presque mourir d'un mal de tête intense à cause de l'altitude. Fait que vraiment, ça va être de tout repos, ça va être le fun. Je vous rappelle que c'est pour la Fondation Cerveau pour la santé mentale. 80 % de mental, 20 % de physique dans cette montée-là. On se prépare. On s'en va bientôt vers le Kilimanjaro. Je vous rappelle que Denis pense toujours que c'est dans le nord du Québec.
Ouais, on pensait que c'est là que tu étais parti il y a une couple de semaines.
Toi aussi, tu étais fautif de ça?
Non, je okay. dis on, excluant la personne
ouais.
qui parle.
Ouais. Denis qui se met à me poser des questions en ondes en disant hey, ça doit être quand même impressionnant, vous suivre à queue leu-leu pour c'est... monter à montagne, je comprenais rien, j'étais au Nunavik.
C'est un de mes bons moments de radio à entendre de ma vie puis de tranquillement comprendre ce qui se passe jusqu'au moment où tout le monde réalise vraiment ce qui est en train de se passer.
Ben, puis Denis, ça a pris du temps. C'est oui, celui ça a été qui a pris long. Le plus de ouais. temps à comprendre que je n'étais pas allé encore au Kilimanjaro, mais bien, on nous navigue en 7 jours.
Pascal CV, merci beaucoup. On t'écoute tantôt dans On en jase le oui. midi avec Jeff, Antonine Iacarini, qui va passer faire son tour aussi pour le caucus Iacarini.
On a bien hâte. Hein? C'est une grosse journée d'actualité de politique aussi. Tu en as parlé tantôt, François Legault, qui est à la commission Galant en ce moment.
Yes, justement. Puis en passant, on refait ça demain. Pascal CV, merci beaucoup. Puis on va finir le show avec ça en se jasant de ce qui se passe du côté de la commission Galant François Legault qui témoigne depuis quoi? À peu près 9 heures ce matin. Puis ça n'a pas arrêté bien, fait que ça fait à peu près 3 heures que le premier ministre du Québec en fonction est du côté de la commission Galant. Les grandes lignes qui en sortent jusqu'à maintenant, ben c'est un peu que des gens autour, puis je pense qu'on s'attendait tous à ça, là. Des gens autour de François Legault, oui, étaient au courant, mais lui, non. Lui continue de dire qu'il a appris les dépassements de coûts importants qu'on connaît au fil du temps, mais surtout quand, ou entièrement, devrais-je dire, quand le rapport du vérificateur général est sorti. Mais intéressant de lire dans le Journal de Québec l'excellent Nicolas Lachance qui fait une couverture exemplaire du dossier, que le ministère du premier ministre a reçu l'info complète sur les dépassements de coûts du projet SACLIC, incluant la stratégie qui visait à passer sous le radar 222 millions de dollars supplémentaires pendant la campagne électorale de 2022. François Legault répond à ça. J'aurais voulu le savoir, mais c'est le ministre des Transports qui est imputable dans ce dossier-là. Donc François Legault qui garde sa ligne et continue de dire que lui n'était pas au courant, même si son ministère l'était. On peut aller écouter un petit peu François Legault, premier ministre du Québec, en direct de son témoignage à la commission Galant.
Et par la suite, il y a eu le rapport de la VG et on a changé aussi le PDG en juillet.
C'est ma question.
Deuxième fois.
On prend du temps pour changer les deux en même temps, parce que ça peut avoir des conséquences
sur la continuité.
Ouais.
J'avais confiance aussi que Mme Savoie irait, en guillemets, regarder s'il y a du ménage à faire.
Un peu plus haut, dans le même courriel, là, dans le paragraphe, commence par « donc ». On dit « donc », en partant du principe que ce n'est pas mon image à lui, je vais aller avec ta deuxième phrase, « surtout quand on a un rapport du VGQ fort probablement désastreux qui s'en vient en février ». Quand vous lisez ça, est-ce que vous posez des questions ou vous questionnez sur qu'est-ce qui...
Moi, j'ai l'impression là, qu'on va se faire dire « c'est épouvantable ce qui est arrivé en février 2023 ». Il y a du monde qui sont fait geler dehors en ligne d'attente parce qu'on a fermé les bureaux puis on a oublié, en rouvrant les bureaux, d'ajouter du monde. Tu sais, je me suis dit « la VG va sûrement pas être contente de ça ». Mais j'avais pas de doute que ça serait sur des dépassements.
Plutôt, vous avez dit plutôt ce matin, chaque matin avec M. Sauve, puis vous avez une revue de presse, des éléments. J'aimerais attirer votre attention sur certains articles qu'on a pu retrouver. Donc, premièrement, à l'onglet 45. Pardon. La pièce 63P819.
François Legault en direct de la commission Galant où il est cuisiné depuis bientôt 3 heures. Quant au fiasco SACLIC, je vous réitère les grandes lignes de François Legault. En gros, là, oui, autour de moi, des gens savaient, des proches de François Legault, sont des gens au sein du ministère de François Legault, il y a des gens qui étaient au courant. Mais lui ne l'était pas avant finalement le rapport du vérificateur général qui est arrivé au début de l'année 2025. Ce qu'il dit, c'est qu'il pense que c'est normal qu'il ne puisse pas regarder tous les chiffres pour chaque ministère, mais qu'à tous les trois mois, ben, il s'assoit avec le ministre des Finances, puis on regarde les dépassements de coûts, les écarts avec le budget. Puis ce qu'il mentionne, c'est que ça n'a pas ressorti parce que peut-être ben, c'était amorti sur plusieurs années, puis il y a des contrats à d'autres endroits qui ont coûté moins cher. Puis là, tu regardes les revenus, les dépenses, en fait, je ne sais pas comment appeler ça, mais le net par ministère, c'est ce que François Legault a mentionné.
OK. T'as un excellent endroit, le 98.5, excellente station, mais
on aurait mieux pas entendu ça.
Ce qui est dit à la radio là, n'est pas dans ma revue de presse. C'est peut-être ça qui explique ça, mais effectivement, je n'ai pas vu ça.
Donc, on a porté à l'attention de François Legault quelque chose qui a été mentionné au 98.5. Et François Legault... Ce qui explique, parce que le premier ministre, les ministres ont des revues de presse où on leur présente chaque matin les éléments d'actualité dont ils doivent être au courant. Puis c'est quelque chose qui se fait pour, je dis les ministres, là, mais pour pas mal tous les députés normalement. Fait que ce qu'on a porté à l'attention de François Legault, c'est « Ouais, telle affaire a été dit à tel moment par rapport au coût. Pourquoi dans ta revue de presse, tu ne l'avais pas? » Et bien, François Legault l'a expliqué en disant que dans la revue de presse, on a ce qui est mentionné dans les journaux, mais on n'a pas ce qui est mentionné nécessairement à la radio. Donc, c'est bon. Fait qu'on va continuer de suivre ça tout au long de la journée, mais pour l'instant, on a pas mal ce à quoi on s'attendait, c'est-à-dire un premier ministre qui dit « Oui, du monde autour de moi, il le savait, mais moi, je le savais pas. » C'est déjà pas mal la fin de cette première du Point de Max en ce mardi 2 septembre. Merci beaucoup d'avoir été là. Dans les prochaines minutes, toute l'émission va se retrouver sur le blvd.fm. Je vous rappelle qu'on a parlé de dépassement de coûts dans les projets d'hôpitaux, des dépassements de coûts assez majeurs au Québec. On a aussi jasé avec Mathieu Brien, qui est organisateur de la grande manifestation nationale pour les élections qui s'est tenue hier devant l'Assemblée nationale. Discussion assez animée avec un homme qui ne veut plus rien savoir de la coalition Avenir Québec. Je pense que c'est comme ça qu'on pourrait le mentionner. Jeff Fortin s'en vient avec Pascal CV, Antonine Iaccarini qui se colle aussi pour le caucus Iaccarini, Rémi Villemur qui va passer faire son tour. Ça, c'est dans On en jase le midi, de midi à 14h. Dès 14h, Gravel dans le retour qui s'en vient avec notamment une rencontre avec Bruno Marchand, le maire de Québec, sur le coup de 16h. Si vous avez des questions, 88-971-1021 et les réseaux sociaux de Boulevard. Fait que là-dessus, je vous dis salut, ciao, bye, à demain. Merci beaucoup d'avoir été là dans Le Point de Max.
Le Point de Max. Le Point de Max. La meilleure équipe radio de la business. Le meilleur rock de la business. La meilleure application mobile de la business. Boulevard 102.1, on est en business.
Du 4 au 7 septembre, Saint-Roch XP s'empare de la rue Saint-Joseph-Est. Plus de 100 spectacles gratuits d'artistes à découvrir dans des lieux inusités. De la bouffe de rue, une galerie d'art et plus encore. Et ça se passe aussi à l'Impérial Belle et au Grizzly Fuzz avec la série Ubisoft. Fred Fortin, Jay Scott, Elie Sapie, Jérôme 50, Alphonse Bisaillon et bien d'autres t'y attendent. Programmation complète au saintrochxp.com. Saint-Roch XP est présenté par SiriusXM.
À l'Académie Saint-Louis, on joue, on expérimente, on se trompe, on recommence, on découvre, on progresse. On s'amuse à apprendre. On apprend à s'amuser. L'Académie Saint-Louis, la réussite se définit ici.
C'est la rentrée à Québec. Avec les chantiers en cours, mieux vaut planifier vos déplacements. Partez plus tôt, utilisez une appli de navigation ou optez pour le transport en commun ou actif. Moins d'attente, plus d'efficacité. Un message de la Ville de Québec.
C'est pas pour rien qu'ABBA, c'est le choix du consommateur depuis plusieurs années. Nos estimations sont gratuites, nos interventions sont rapides. Chez ABBA, on vend du résultat. Il y a plus de 1000 avis en ligne qui prouvent que notre solution, ben, elle fonctionne. ABBA-extermination.ca, ou appelez-nous maintenant au 666-6667. ABBA, une solution définitive.
Le samedi 13 septembre, assistez au